bonsoir. Je vois que, je ne sais pas si c'est la grippe ou les vacances qui ont fait des ravages dans l'auditoire. Peut-être les deux. Je suis en tout cas ravie de vous voir fidèle au poste pour venir écouter une conférence de Jean-Pierre Clairaut qui est professeur à l'université de Rouen, spécialiste de l'utilitarisme et qui avait fait sa thèse de doctorat sur les passions chez Hume. Et alors il est évidemment la personne idéale pour nous en parler ce soir. Voilà.
Merci Anne. Après un voyage très tourmenté, parce que il se trouve que j'ai dû venir ici par, je pensais vraiment être très très facilement ici avec le train, mais pas du tout. Il a fallu s'arrêter, de Lille à Tournai, il a fallu prendre un car, et puis ensuite un train. Enfin bref, les choses n'ont pas très bien tourné, c'est le cas de le dire. Bon, mais je suis très heureux d'être ici parmi vous, d'être de retour d'ailleurs à Mons pour une conférence sur David Hume. Et je le suis pour, je dirais, pour une multitude de raisons. Je vais en choisir simplement trois. D'abord parce que j'aime beaucoup cette ville et cette université où j'ai souvent été invité, invariablement d'ailleurs par mon ami Anne Stacquet, qui est en amitié d'une fidélité absolue, et je suis heureux de la retrouver toujours aussi active pour faire vivre et fructifier la philosophie, dans son université et aussi au-delà d'elle. Ensuite, parce que après une longue maladie, je reprends mes déplacements à l'extérieur de Paris, et puis ce qui me comble d'aise, et puis aussi de Rouen, qui est la ville où j'enseigne principalement, comme l'a dit à l'instant Anne Stacquet. Et enfin parce que, et elle l'a dit très bien, le thème des passions, et je dirais plus particulièrement le thème des passions chez Hume, est celui par lequel je suis entré de plein pied en philosophie, et j'ose dire dans la carrière philosophique, puisque j'ai soutenu ma thèse il y a plus de 30 ans à la Sorbonne sur la théorie même dont il va être question ce soir. Mais il s'agit moins de carrière que d'émerveillement. Je dirais que une de mes premières émotions philosophiques a été de constater que l'on pouvait conceptualiser un domaine que je croyais complètement inaccessible à la théorie, à la réflexion conceptuelle. Alors je sais bien que la poésie, la littérature, les romans mettaient en scène plus ou moins habilement des passions, mais il a fallu que je doive, comme étudiant à l'université, faire un exposé sur la philosophie pratique de Hume pour que je tombe sur ces pages remarquables qui décrivent les passions et leur fonctionnement avec une clarté qui m'a sidéré. Alors je crois qu'il est temps de se mettre au travail. Je crois que j'ai à peu près 1h15 devant moi pour expliquer de quoi il s'agit à propos des passions chez Hume. N'hésitez pas à m'interrompre si vous pensez qu'un point ne vous semble pas clair ou que je vais trop vite. Donc n'hésitez surtout pas, je prendrai surtout pas mal le fait que vous m'interrompiez. Donc ce soir, ce que je voudrais faire, c'est vous parler de la théorie des passions chez Hume. Alors je pense que la première opinion qui peut faire obstacle à la compréhension des passions et de leur fonctionnement chez Hume tient à ce que l'on a tendance, aujourd'hui, notre époque, à comprendre le sentiment comme étant en quelque sorte intérieur au moi, plus intérieur à notre moi, à notre sujet, à notre esprit, comme s'il était en lui, que d'autres sensations, par exemple nos perceptions, qui sont toujours vécues comme étant plus extérieures que les sentiments. Or, nous allons voir que chez Hume, non seulement les sentiments ne sont pas dans le moi, comme si le moi les enfermait ou les contenait, mais que ce sont plutôt les divers sentiments que nous éprouvons qui donnent des fonctions, d'ailleurs extrêmement diverses, au moi, qui ne jouent pas le même rôle dans l'amour, dans une haine, dans l'orgueil, dans l'humilité, dans un espoir ou dans une crainte. Alors, ce qui ne veut pas dire que Hume confond toutes les impressions que nous avons en traitant des perceptions comme il traiterait des sentiments, mais il ne fait pas passer leur distinction par les notions d'intérieur et d'extérieur, ou d'intériorisation et d'extériorité au moi. Il oppose plutôt ce qu'il appelle, et ça va être important pour nous, ce qu'il appelle les impressions de sensation, qui paraissent nous mettre en contact visuel, en contact auditif, en contact olfactif, enfin gustatif, tactile, avec les objets qui nous entourent, et qui semblent venir en quelque sorte des objets eux-mêmes, hein, tandis par exemple que je suis en train de vous voir en ce moment. Donc il oppose ces impressions qu'il appelle de sensations, aujourd'hui on dirait peut-être des perceptions, hein, c'est à peu près l'équivalent, hein, et les impressions de réflexion, qui, pour être aussi immédiates que les précédentes, parce qu'elles sont senties tout simplement, ne paraissent pas provenir des objets. Ne paraissent pas provenir des objets comme les premières. Alors tout se passe comme si ces impressions de réflexion présupposaient les impressions de sensation. Présupposaient les impressions de sensation pour être en quelque sorte le sentir de leur sentir. S'il me fait plaisir, par exemple, de sentir le lys de cette table, je ne sens pas le plaisir que j'ai de sentir le lys comme je sens le lys. C'est quelque chose d'autre. Le lys me paraît être une propriété de la table, tandis que le plaisir du lys, si je puis dire, implique un sentir de sentir. Et il y a plus d'ailleurs, puisque des idées peuvent me, en quelque sorte, des idées dont je pourrais pas avoir la sensation au sens strict, peuvent donner lieu à un sentir qui paraît se rapporter à elle, à ses idées. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sens pas l'idée de triangle, comme des choses qui sont triangulaires. Les choses triangulaires, je peux bien les sentir. L'idée même de triangle, je ne la sens pas, à proprement parler, mais cette idée me donne néanmoins des impressions, peut me donner des impressions agréables ou désagréables, agréables pour les unes, désagréables pour les autres. Il s'agit cette fois de ce qu'on appelle donc des impressions de réflexion. Les passions dont nous allons parler sont des impressions de réflexion. Le fait qu'elles soient plus réfléchies que les autres impressions, n'implique pas qu'elles se déroulent dans notre esprit, qui en serait en quelque sorte le lieu privilégié. Seulement, leurs impressions ne sont pas simplement des impressions de choses, et elles ne donnent pas lieu à des idées qui ne sont plus sensibles. C'est-à-dire que les sensations et les idées se sentent elles-mêmes, si je puis dire, et c'est ce que Hume appelle des impressions de réflexion. Alors on l'aura compris, et c'est le deuxième point auquel il convient de prendre garde tout de suite, d'entrée de jeu, le terme de passion, l'acception du terme de passion est encore beaucoup plus générale au XVIIIe siècle, puisque Hume est un auteur du XVIIIe siècle, est beaucoup plus générale que celle que nous entendons par là aujourd'hui. Nous réservons le mot de passion, nous autres, à des sentiments qui, comme l'amour ou la haine, l'orgueil, l'humilité, sont violents. Sont violents, je veux dire, et paraissent très ancrés en nous. S'il est vrai que Hume s'intéresse essentiellement aux passions que je viens de désigner, comme l'amour, la haine, l'orgueil et l'humilité, eh bien, il laisse encore au mot de passion un sens très général, qui était celui du XVIIe siècle, et beaucoup plus lointainement encore, celui de Platon ou celui d'Aristote. Il désigne tout ce qui est, à nos yeux de gens du XXIe siècle, de l'ordre des passions, bien entendu, mais aussi du sentiment, de l'émotion ou de l'affect. Ça recouvre vraiment très très largement toutes sortes de notions. Hein. Donc, Hume entend indifféremment les passions et les impressions de réflexion, hein, encore que l'impression de réflexion puisse s'appliquer au sentiment, par exemple, de nécessité qui existe dans la cause, ou au sentiment du réel qui me saisit, par exemple, quand je crois que vous êtes là en face de moi. Hein. Hume parlerait volontiers à ce moment-là de passion. Hein. Il dirait volontiers que c'est quelque chose de cet ordre. Bien. Donc, deuxième chose que je voulais établir. Enfin, il existe un troisième point auquel il convient de prendre garde chez Hume, dès lors que nous voulons comprendre ce qu'il appelle passion, hein, et suivre son explication du fonctionnement des passions. Hein, c'est que si les passions sont senties, hein, je sens par exemple que je suis amoureux quand je le suis, je sens la haine que j'éprouve quand l'autre, quand je suis haineux, hein, je sens mon orgueil quand, par exemple, un événement met ma personne en relief ou en avant. Hein. Si les passions sont senties par le savoir réflexif hein, dont nous avons parlé, hein, il est un autre discours qui est tenu par Hume à propos de ses passions. Et ce dernier discours est un discours de force, un discours dynamique. Hein. Discours de force, laquelle n'est pas toujours sentie, hein, mais qui explique, ou du moins contribue à expliquer, comment un affect, ou une passion, hein, puisque les mots sont équivalents, naît, évolue, finit, donne lieu à d'autres passions, ou se transforme en d'autres affects. Dans ce second sens, de force, donc, hein, ou de quelque chose qui est de l'ordre de la dynamique, hein, la passion peut encore être définie comme impression de réflexion. Hein, ça gêne pas. C'est-à-dire, notre première définition peut être tout à fait maintenue. Hein. Donc, elle peut encore s'appeler ainsi, hein, mais elle devient aussi, et là, je cite l'auteur, modification originale de l'existence. C'est-à-dire qu'elle est impression de réflexion et modification originale de l'existence. Alors, sans doute, peut-on encore entendre la modification dans le sens où le logicien, par exemple, parle de modalité, hein, au sens de possibilité, existence, nécessité, mais le mot retient incontestablement et sans contradiction avec le sens de modalité, la signification d'une altération, d'une transformation, hein, dont il n'est pas toujours possible d'avoir conscience. Donc Hume ne se contente pas de définir les passions, comme le faisait par exemple Aristote dans le deuxième livre de la rhétorique. Hein, sans doute s'évertue-t-il, comme lui, comme Aristote, à détecter le plus finement qu'il peut les situations dans lesquelles se déclare telle ou telle passion, hein, sans autre préjugé que celui de l'expérience commune et celui du nom, hein, par lequel on s'y réfère ordinairement. Hein. Il les classe, exactement comme le fait Aristote, il les classe en paires de passions contraires, amour, haine, orgueil, humilité, espoir, crainte, colère, tranquillité, etc. Mais, et c'est ça qui va sans doute caractériser ce qu'il fait, il cherche aussi les lois de leur passage, l'une dans l'autre, ce qui ne relève pas de la simple logique, mais implique une conception dynamique des passions. Au fond, le problème pour Hume va être non pas seulement donc d'essayer de savoir, de caractériser logiquement les passions, hein, mais de savoir comment on passe d'une passion à une autre, hein, si je puis dire. Alors, avant d'entrer dans le détail de cette analyse des passions et de la dynamique de leur transformation, hein, qui donc va bien au-delà de leur simple opposition logique, il nous faut encore livrer deux choses à notre public. Hein. La première est que Hume a écrit deux textes fondamentaux. Hein, deux textes fondamentaux sur la question des passions. Hein. Le livre 2 du traité de la nature humaine, hein, livre 2 du traité de la nature humaine, qui est un livre charnière entre deux autres livres de l'œuvre, et qui est paru 2 ans après le premier, c'est-à-dire il est paru en 1741. Et la dissertation sur les passions. La dissertation sur les passions, envoyée à l'éditeur en juin 1755, publiée en 1757, mais probablement composée 7 ou 8 ans auparavant. Alors, il est indiscutable que les 200 pages consacrées par le traité aux passions font entrer beaucoup plus subtilement dans le détail, des analyses, tant des passions que de leur cheminement, de leur développement, et qu'elles promeuvent un mode d'approche dynamique que les 35 pages de la dissertation, c'est un texte très bref, ne prennent plus en compte, car il faut beaucoup de place pour expliquer les phénomènes passionnels, en particulier par la dynamique psychique. Mais la dissertation n'est pas un simple résumé du livre 2, si, le plus souvent, elle se sert exactement des mêmes pièces. On a l'impression de beaucoup de répétitions chez Hume. Si elle se sert des mêmes pièces que le traité, elle les réorganise différemment, elle ne met pas l'accent sur les mêmes thèmes. Pour donner un exemple de ces redistributions, le traité part de l'orgueil. Il parle de l'analyse de l'orgueil, couplé avec l'humilité, qui est traité plus succinctement, tandis que la dissertation s'ouvre par des remarques sur l'espoir, sur l'espérance et sur la crainte. C'est-à-dire là où le livre 2 s'achève quasiment. Alors on sait à quel point il importe de prendre en compte la passion par laquelle commence un philosophe pour traiter des passions. Lorsque, par exemple, je vais prendre un exemple complètement différent de celui de Hume, lorsque, dans L'être et le néant, Sartre ouvre le chapitre de ce qu'il appelle l'existence pour autrui, il l'ouvre par la honte. Et cet affect va, en quelque sorte, dominer son analyse des relations avec autrui. C'est-à-dire que l'autre sera toujours celui qui me voue à une passivité irréductible dont le premier mouvement qu'il me fait sentir dans ma chair, c'est de m'objectiver, c'est de me transformer en quelque sorte en objet pour lui. Alors, on va pas parler de Sartre, mais qu'est-ce qui, chez Hume, change à vouloir commencer par l'orgueil, comme le fait le traité, plutôt que par l'espérance et la crainte à la façon de la dissertation, alors que les deux textes ne disent pas des choses très différentes sur les unes et sur les autres. Eh bien, le souci de l'auteur du traité est très différent de celui de la dissertation. Il s'agit pour l'auteur du traité de parachever la critique du moi, qui n'est qu'un ensemble de passions, qui n'est qu'un ensemble de sensations, un ensemble d'impressions. Un ensemble d'impressions, de réflexions, d'idées, reliées selon des lois, mais pas une instance qui existerait un petit peu comme leur support. Dès lors, il faut expliquer que cette illusion du moi et montrer qu'une passion, comme l'orgueil, me donne l'impression qu'il existe quand même quelque chose comme un moi. Tout simplement parce que cette passion donne consistance à sa fiction, alors même qu'il n'a aucune espèce de réalité. Donc on comprend très bien que une fois qu'il a critiqué la notion de moi, il est tenté, au fond, tout à fait à la fin du livre 1, il est tenté au début du livre 2 d'expliquer l'illusion que nous avons, l'illusion narcissique que nous avons, l'illusion qu'il existe quelque chose comme un moi, et on comprend assez bien qu'il attaque, si j'ose dire, la question des passions par l'orgueil et l'humilité, plutôt que par, justement, une autre passion, comme la crainte ou comme l'espoir. Eh bien, au contraire, la dissertation ne pose pas du tout le même problème. Elle ne pose pas le même problème et elle ne se soucie pas de la réalité ou du caractère fictif du moi. Du coup, il n'est pas indispensable de commencer, il n'est pas utile de commencer par l'orgueil et l'humilité. Et ce qui l'intéresse, c'est la notion de probabilité. Et là, la crainte et l'espoir, évidemment, vont être les passions les mieux choisies. C'est la notion de probabilité qui, cette fois, sous-tend l'espoir et la crainte, et qui se trouve préférée en ce que la notion de calcul des passions, par exemple, passe au premier plan, et qu'un certain utilitarisme prend la relève de la première philosophie des passions. Et il n'est pas, il ne serait pas difficile de montrer que la probabilité est une figure devenue particulièrement appropriée pour rendre compte des passions, puisque, comme elle porte cette probabilité, non pas directement sur les choses, mais sur une première appréciation des choses, comme on le voit par exemple dans une conception qui serait subjectiviste des probabilités. Et de plus, qu'elle est une figure particulièrement adaptée à leur calcul, car tout en respectant le mode d'accès des passions aux objets, eh bien, elle ne laisse pas de les mettre en relation les unes avec les autres, et particulièrement de les quantifier. Donc on peut dire d'une certaine façon que la notion de probabilité va être peut-être extrêmement intéressante et utile pour donner une espèce de modèle de certaines passions. Et cette tendance utilitariste se confirme lorsqu'on voit une notion qui joue un rôle essentiel dans le traité, au point de recevoir un traitement spécial, c'est un chapitre particulier, si je veux dire, au sein même de ce travail, s'évanouir au point de disparaître dans la dissertation. Je veux donc parler de la sympathie, nous reviendrons sur la sympathie, mais il faut que nous en passions à la seconde considération, avant de regarder le mode de fonctionnement des passions commun au traité et pour l'essentiel à la dissertation. Alors, cette seconde considération est que Hume ne s'inspire pas du seul Aristote. Je citais juste Aristote comme étant une espèce de devancier pour Hume, qui d'ailleurs s'en inspire véritablement, mais il ne s'inspire pas du seul Aristote pour venir à bout de sa considération des passions. Nous réservons nos remarques sur Bacon, lorsque nous aurons davantage avancé dans l'étude du fonctionnement des passions. Insistons pour le moment sur l'influence de Mandeville, qui est un médecin, le médecin anglais auteur de La fable des abeilles. Bien sûr, pour penser les phénomènes passionnels irréguliers, maladif, encore que, attention, la passion n'est pas forcément maladive chez Hume, les passions sont parfaitement normales, il est ordinaire et normal d'avoir des passions. Mais il se trouve que le discours médical de Mandeville va lui être particulièrement utile, mais donc aussi il va s'en servir pour un certain type de compréhension de la causalité des phénomènes, qui soit moins un repérage uniquement observateur, observant et passif de la passion qu'on analyse, qu'une prise en charge de celle-ci, telle qu'on puisse intervenir sur les composantes, les paramètres qui la déterminent. Pas plus qu'une maladie n'est quelque chose qui existe en soi, puisque elle est telle que le médecin intervient en elle par ses soins. Eh bien, la passion n'existe comme quelque ensemble fini et délimité que l'on puisse désigner comme le faisaient certains classiques, dont Descartes. C'est-à-dire que jamais vous trouverez chez Hume l'idée que la passion existerait en quelque sorte comme quelque chose en soi, qui aurait une espèce de réalité et de consistance. La passion, on va voir très vite que ça va être un jeu de relations, mais ça ne sera jamais quelque chose qui existera au sens strict. Et c'est pour ça que ça peut intéresser Hume, la médecine, puisque un médecin, pour soigner, n'a pas exactement besoin de savoir ce que c'est que ce dont vous souffrez. Il peut intervenir d'entrée de jeu, si j'ose dire, il doit même intervenir d'entrée de jeu. Et en ce sens-là, la médecine peut être un bon modèle pour penser ce dont il s'agit dans les passions. Alors certes, Hume a pu dire dans le livre 3 du traité, qu'on ne pouvait pas davantage changer les sentiments que les mouvements des cieux. Bon, ça va tout à fait à l'opposé de ce que je suis en train de dire tout de suite, mais il n'en présente pas moins un savoir des passions qui permet d'intervenir dans leurs circonstances, dans leurs causes, hein, exactement comme le médecin, par exemple, hein, intervient dans la maladie bien avant de savoir l'identifier. Outre la dette à Mandeville, qui est médecin, hein, il est encore au moins deux dettes que Hume a contractées envers les philosophes. Celle envers Spinoza, dont je crois qu'il a été déjà question ici. Celle envers Spinoza et celle envers Pascal. À Spinoza, qui ne sépare pas plus que lui l'âme et le corps. On n'est pas du tout dans un dualisme avec Hume. L'âme et le corps, c'est la même chose. Il dit très souvent « mind or body ». C'est exactement pour lui la même chose. Donc on n'est pas du tout dans un cartésianisme qui a tendance à distinguer l'âme et le corps, même s'il s'agit de les unir, hein, mais on distingue substantiellement l'âme et le corps. Là, il s'agit jamais de cela. Âme et corps ne font qu'un, hein, et c'est pour ça que la référence à Spinoza est tout à fait possible. Et pour une deuxième raison encore, cette référence à Spinoza est importante, c'est que la notion d'individu est problématique, aussi bien chez Spinoza que chez Hume. Hein. Et il empruntera à Spinoza sa façon de faire des ordres, de faire des connexions, hein, des connexions entre les perceptions, entre les idées, entre les impressions, tout ça pour rendre compte des passions, hein, et de leurs mouvements. Et à Pascal, lorsqu'il lui doit, outre un certain nombre de thèmes, comme par exemple la critique du moi, hein, ils sont tout à fait d'accord pour critiquer la notion de moi, eh bien, il pouvait emprunter la mise en forme des passions par la notion de probabilité. C'est-à-dire, dans les deux cas, vous avez une très très forte, on se sert massivement de la notion de probabilité. Mais, avec Pascal, on entre dans un autre ordre de considération qui est tout aussi importante que les précédentes et que l'on pourrait appeler la mise en forme littéraire de la passion. C'est-à-dire que chaque passion implique un certain style que Hume choisit d'emprunter à tel ou tel auteur de littérature. Car l'homme de lettres est important en philosophie. L'homme de lettres s'empare d'un coup, on pourrait dire, du style, du rythme, et comme on pourrait dire de la vie linguistique de la passion ou de son image. S'il ne donne aucune indication sur la dynamique du processus passionnel, du moins se saisit-il, on pourrait dire, de la saveur de l'impression de réflexion ou de la passion. Et c'est certainement une étape essentielle à partir de laquelle le travail du philosophe, le travail systématique, le travail conceptuel du philosophe peut s'établir. Est-ce un hasard d'ailleurs si Hume, lorsqu'il se réfère explicitement à quelques auteurs dans la dissertation ou dans le traité, ne cite pas de philosophe, il ne cite guère de philosophe. Mais il préfère citer des essayistes, comme par exemple Addison, des poètes comme Prior, comme Philip, comme Phillips, comme Horace, comme Virgile, un auteur de maximes, comme La Rochefoucauld. Mais voyez, il ne cite, pour ainsi dire, presque pas de philosophes. Les philosophes sont sous-jacents, bien sûr, à son travail, mais il ne les cite pas. Il imite très volontiers le ton, on pourrait dire le tune en anglais, la saveur, la couleur, que certains écrivains de son temps ou des siècles passés ont su donner à telle ou telle passion avant de s'élever à sa théorie. Ainsi, certains alinéas, par exemple sur l'orgueil, pourraient être rapprochés de quelques passages des caractères de la Bruyère, hein, par exemple, hein, sans toutefois que l'on puisse affirmer qu'il s'agisse de citations déguisées, hein, et auxquelles il ne manquerait que des guillemets, d'une certaine façon. Hein, car on serait souvent bien en peine de préciser exactement d'où est extraite telle ou telle allusion. En tout cas, la réflexion sur la littérature est un élément essentiel de la pensée des passions. Et là, il faut maintenant que je complète une chose que j'ai dite trop rapidement, c'est que les deux ouvrages qui, chez Hume, traitent explicitement des passions, hein, à savoir le traité de la nature humaine et la dissertation, hein, eh bien, ne sauraient être séparés de l'essai sur la tragédie. Il a écrit un texte qui s'appelle, un très court texte, qui fait 8 ou 9 pages, hein, tout au plus, une sorte de dissertation, essai sur la tragédie, qui s'intéresse particulièrement à la façon dont le langage entre dans la trame des passions. Et il joue le rôle central. Non pas de désigner en vérité les affects, non pas de désigner vraiment les affects, car il n'y en a probablement pas. Il n'y a probablement pas de définition des affects, puisque les passions, comme je le disais, comme nous allons le voir, n'ont pas d'existence substantielle, n'ont pas de réalité substantielle. Mais le langage va avoir comme rôle de fixer le jeu des passions, car si, enfin de le fixer en partie, hein, ce jeu des passions, hein, car s'il n'y avait pas les signes du langage, les signifiants, du langage pour marquer le passage, et prêter leur liaison pour faire des repérages, eh bien peut-être ne parviendrions-nous jamais à ne voir dans le flux des passions, dans le flux temporel des passions, qu'un indescriptible chaos. Alors notre problème maintenant est le suivant, c'est en quel sens y a-t-il des passions identifiables, au moins relativement identifiables, comme l'orgueil, humilité, amour, haine, en fait, etc. En quel sens ne sont-elles pas séparables de leur mouvement, puisque en fait il n'y a de passion que dans le mouvement de passer à d'autres passions. Et la question pour nous, c'est est-ce qu'il y a quelques règles de ces mouvements? Est-ce qu'on peut montrer, est-ce qu'il y a quelques lois qui sont en quelque sorte respectées dans ces mouvements et qu'on pourrait en quelque sorte énoncer? Bien, alors on va prendre ces points-là dans l'ordre et les regarder en entrant maintenant un petit peu dans le détail. Sur le premier point de l'identification des passions, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on va désigner telle passion, comme amour, haine, etc., etc. Eh bien, si, d'une part, dans le traité, dans la dissertation de Hume, pas plus que dans la rhétorique d'Aristote, il n'y a, à proprement parler, de définition des passions, alors qu'on en trouve chez Descartes, alors qu'on en trouve chez Spinoza. Dans l'éthique de Spinoza, eh bien, à la fin du troisième livre de l'éthique, il y a tout un très très long paragraphe qui s'appelle « Définition des passions ». C'est-à-dire qu'on peut définir les passions selon Spinoza. C'est plus fuyant chez Descartes, qui ne dit pas ça de cette façon, mais qui quand même se livre en quelque sorte à l'exercice. Donc si, je dirais, il n'y a pas à proprement parler de définition des passions chez Hume, et si d'autre part, la seule caractérisation des situations auxquelles elles sont liées ne saurait épuiser, ni même constituer à un quelconque degré, la teneur de la passion, la saveur de la passion, ce que les Anglais appellent le tune des passions, la tonalité qu'elles ont, qui est irréductible finalement à une situation. Une situation de haine n'est pas exactement la même chose que la saveur particulière qu'a la haine. Et les Allemands parlent de Stimmung, pour dire à peu près la même chose. Eh bien, ces deux conditions que je viens de dire, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de définition, et s'il faut tout de même pas confondre les situations avec la saveur même d'une passion que l'on éprouve dans une situation donnée, eh bien, ces deux conditions n'empêchent pas Hume de donner une allure structurale à chaque passion. C'est-à-dire, il donne l'aspect d'un système, d'une structure à plusieurs composantes, quand il veut essayer de, non pas définir les passions, mais de dire dans quelles conditions elles se produisent. Toute passion, là j'entre un petit peu dans le détail, et vous allez voir que ce détail n'est pas très surprenant. D'une certaine façon, si on lit la rhétorique d'Aristote, on trouve exactement la même chose. Et je vous conseille d'ailleurs de lire ce texte si vous ne l'avez pas fait, parce que c'est un merveilleux texte, qui est facile à lire en plus, c'est pas de l'Aristote très compliqué de la métaphysique. C'est un texte où on savoure véritablement la description très fine de ce qu'on entend par amour, ce qu'on entend par colère, ce qu'on entend par haine, etc. Bien, alors donc, toute passion, selon Hume, et là, encore une fois, il ne se démarque pas beaucoup d'Aristote, se caractérise par un sujet, par un objet. Hein. Parfois, d'ailleurs, le sujet et l'objet coïncident, comme dans le cas de l'orgueil, qui est un certain sentiment de soi. Hein. C'est le même, au fond, qui a le sentiment et qui se rapporte à soi aussi comme un objet. Hein. Elle a une cause dans laquelle il faut distinguer les qualités qui la déclenchent particulièrement. Hein. Il arrive aussi qu'une passion poursuive une fin, hein, une espèce de finalité, hein, poursuive une fin pratique, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit imaginaire. Hein. Ainsi, à tort ou à raison, l'amour, par exemple, se croit-il ordinairement lié à la poursuite du bonheur du sujet aimé, hein, tandis que la haine poursuit la destruction, enfin plus ou moins symbolique, de l'être haï. On peut donc, jusqu'à un certain point, décrire les passions par cette structure hein, que je viens d'énoncer, qui est très, très grossière, très fruste, hein, qu'il faut évidemment aménager à chaque cas, hein, ou plutôt à chaque groupe de cas, hein, car il se pourrait que, aucune passion n'existant en soi, eh bien, chaque cas fût trop singulier pour qu'on pût le désigner comme amour, haine, espérance, espoir, tristesse, etc. C'est le langage qui intervient. C'est là où le langage intervient qui permet de repérer une structure et d'appeler amour une relation que j'ai avec telle femme alors qu'elle ne ressemble que de très loin avec une relation qu'un autre entretient avec une autre femme ou que j'ai entretenue par le passé avec une autre femme. Donc, le langage n'est pas, à proprement parler, une connaissance hein, du cas, hein, mais il est ce qui permet de lui donner une identité relativement objective, hein, ou si on préfère, on dirait peut-être aujourd'hui intersubjective, hein, reconnaissable, si j'ose dire, par quiconque, hein, d'une certaine façon. C'est bien le cas de dire, par exemple, avec La Rochefoucauld, hein, que cite Hume, hein, qu'il est des gens qui ne seraient jamais devenus amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler d'amour. Hein. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on voit que les mots sont extrêmement constitutifs des passions. Si les mots n'existaient pas, d'une certaine façon, eh bien, il n'est pas sûr que les passions existeraient, d'une certaine façon. Hein. C'est-à-dire que le langage joue un rôle fondamental pour structurer la passion. Ça n'est pas une connaissance, il ne s'agit pas de connaître la passion, hein, mais il s'agit d'une certaine façon de lui donner une espèce d'identité. D'une certaine façon, c'est bien l'existence d'un mot, et bien sûr de tournure autour de ce mot, qui m'intime par une sorte de, je dirais, d'aspiration, hein, de mettre en œuvre la structure de l'amour que j'investirais au pôle sujet, si je puis dire, tandis qu'une autre personne sera constituée en objet en raison de sa beauté ou de toute autre qualité que je perçois dans cette personne. On pourrait insister ici sur les rôles conjoints de l'autorité et de la sympathie, hein, dont Hume dit que toutes les passions leur doivent l'origine. Hein. Toutes les passions doivent leur origine à ce phénomène d'autorité. Hein, en fait, la société impose d'une certaine façon une certaine façon de distribuer les passions, hein, puisque les mots existent et ils n'existent pas dans une langue comme ils existeront dans une autre langue. Il y a véritablement beaucoup de distinctions à faire entre la façon dont une société impose ses schèmes affectif, si j'ose dire, et une autre société. Donc il y a bien une question d'autorité et de sympathie. C'est-à-dire que je fais comme si les autres éprouvaient certains sentiments, que je n'ai peut-être pas directement, mais il se trouve que, voyant ces sentiments, croyant voir ces sentiments à l'œuvre, eh bien, moi-même, je suis tenté au fond, de sentir comme les autres sentent, hein, ou de m'imaginer que je sens ce que les autres sentent. Hein. Alors, vous allez dire, mais ça, c'est purement imaginaire. Oui, ça l'est, mais c'est structurant. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on structure des passions comme ça. Hein. On leur donne un contenu qu'elles n'ont absolument pas qu'elles n'ont pas spontanément. Donc voilà le point que je voulais préciser. Le point le plus important que nous venons d'établir est donc que les passions n'existent pas en soi. On n'est pas du tout comme chez Descartes ou peut-être chez Spinoza. Les passions n'existent pas en soi. Elles n'ont pas de réalité substantielle. Et on pourrait dire que toute leur fragile consistance tient à un système de relations. Alors, je dis fragile, car leur stabilité tient à la structuration par une langue, qui pourrait être différente. Et elle tient à une structure laquelle, parce qu'elle est intimée par une société à une époque, à une certaine époque de son histoire, pourrait aussi être autre. Et c'est pour ça que je dis qu'elles sont fragiles, les passions. Et ce point est par lui-même riche d'aperçus, que je n'ai pas le temps de développer, mais on pourrait le développer d'ailleurs au niveau de la discussion, mais en dépit de toute sa richesse, il ne saurait suffire pour comprendre le cours des passions et leur mode de fonctionnement. Et c'est de cela que j'aurais maintenant parlé. Parler de nos passions, en termes structuraux et relationnels, comme je viens de le faire, implique donc une instabilité, et une temporalité, peut-être pour une autre raison encore, beaucoup plus profonde. Si seules les relations sont stables, les termes qu'elles mettent en jeu, ces relations, ne le sont pas nécessairement. On pourrait même dire qu'ils sont nécessairement instables. Les structures passionnelles dont nous parlons n'existent que dans un univers de sensations, à partir desquelles se constituent des idées de toutes sortes, des souvenirs, des fantasmes, des concepts, des projets. Ces sensations, ces perceptions, ces idées sont, même si ce n'est pas au même rythme, sont constamment changeantes. Elles sont constamment changeantes et du coup, les structures passionnelles changent, elles aussi, dans leur contenu, certes, mais aussi, inévitablement, dans leurs relations. Alors, Hume a essayé de trouver la règle de transformation de ces sillages, en quelque sorte, de sensations, et de ces sillages d'idées, de toutes sortes, qui, vraiment comme le font les astronomes et les physiciens dans leur domaine propre de recherche, sont l'objet de la recherche des lois et de leur changement. Eh bien, c'est très exactement ce que je suis en train de vous décrire tout de suite, ce que Hume appelle les lois de la double association. C'est-à-dire que les sensations s'associent, si je puis dire, et les idées, qui dérivent pourtant des sensations, s'associent, elles aussi, à leur façon, sur un mode propre. Tandis que chacune des associations crée en quelque sorte des interférences. Des interférences et des combinaisons avec l'autre. Autrement dit, rien n'empêche une suite d'associations de s'associer à une autre suite d'associations. À ces deux sortes d'associations, celle des sensations et puis celle des idées, il faut, comme nous l'avons suggéré, ajouter celle du langage, les associations du langage qui stabilisent en quelque sorte le premier jeu. Alors cette fois, avec la loi de la double association, que l'on ferait peut-être mieux d'appeler celle de la triple association, puisque le langage, Hume l'appelle constamment comme ça, il parle de loi de double association, mais à la limite, on pourrait plutôt parler de triple association, puisque le langage intervient massivement pour essayer de geler ce jeu des sensations et des idées. Eh bien, donc, avec la loi donc de double association ou de triple association, on tient, si je veux dire, en même temps, la règle de formation des passions. On voit bien comment elles se constituent, les passions, puisque le langage nous permet de faire des découpes plus ou moins imaginaires et symboliques dans le cours des associations de diverses sortes, de telle manière qu'il repère des passions. Mais donc on repère, grâce à cela, des passions qu'on peut en quelque sorte désigner, mais aussi on tient avec cette loi de la double association, de la triple association, on tient aussi la règle de leur délitement, hein, d'une certaine façon, de leur décomposition, de leur passage à toutes sortes d'autres passions, sans qu'il n'y ait eu de début et sans qu'il n'y ait de fin. Notre sujet, si toutefois on peut l'imaginer autrement que de façon symbolique, ne faisant que jouer un rôle dans ce système mobile. Je crois qu'on n'insistera jamais assez sur le caractère hypothétique, aléatoire, temporel, du passage de ce que le langage nous permet de repérer comme des passions, dont l'existence éphémère insiste tout de même un peu dans le flux des impressions et des idées. La loi qui nous permet de garantir quelque identité aux passions est en même temps ce qui autorise en quelque sorte de la contester et de la relativiser. D'une certaine façon, on pourrait dire que la loi de double ou de triple association, sonne le glas de l'idée de passion, laquelle perd toute stabilité substantielle. Certes, pour écrire la loi, il a fallu opérer des simplifications dans le cours des sensations et des idées, mais une fois qu'elle est écrite, cette loi, elle sert à mettre en cause ces simplifications et les fausses stabilités, et à la limite, elle sert même à s'en passer. Autrement dit, la loi de la double association, ou de la triple association, requiert, pour être écrite, des principes dont elle permet, en sens inverse, une fois écrite, une radicale mise en question. Alors, voyons ce point de plus près avant de considérer deux autres remarques sur lesquelles nous serons proches d'achever notre propos. Pour pouvoir écrire la loi de la double association ou de la triple association, il faut présupposer au moins trois principes sur lesquels cette écriture même permettra de revenir, de façon critique ou de façon sceptique. Le premier principe est que chaque passion jouisse d'une sorte d'identité et doivent toujours pouvoir être reproduites dans des circonstances semblables, s'il est possible d'en rendre compte par une structure. Alors, ça, on pourrait appeler ça, en gros, le principe d'Aristote. C'est-à-dire, on sait repérer une situation passionnelle, et dès qu'elle se reproduit, on peut désigner cette structure comme étant celle de la colère, celle de l'amour, celle de la haine, etc. Bon. D'une certaine façon, pour enclencher la dynamique dont parle Hume, on a l'impression qu'il faudrait partir d'un principe comme celui-là, pouvoir détecter une passion, puis une autre, et voir comment on passe d'une passion à l'autre, donc il faudrait un certain principe de stabilité. Bon, un premier principe. Le deuxième principe est que les relations qui composent la structure passionnelle doivent disposer d'une sorte d'indépendance réciproque suffisamment distincte pour que l'action de l'une ne soit pas du même coup une action de l'autre. C'est-à-dire que on a vu qu'il y avait comme composante dans chaque structure un sujet, un objet, une cause, des qualités à ces causes, non seulement une cause efficiente, mais éventuellement une cause finale. Bon, le problème pour essayer, si on veut essayer de faire une science de ces passions, c'est d'avoir des paramètres qui bougent pas tous en même temps. C'est-à-dire si je peux changer en quelque sorte le sujet, que les autres termes ne changent pas parce que je suis en train de changer le sujet, ou que si je suis en train de changer l'objet, que ça ne change pas radicalement les autres termes. Donc, en d'autres termes, il faut pouvoir intervenir sur un paramètre de la structure, si je puis dire, sans modifier les autres paramètres. Or, c'est une grave difficulté. On travaille sur un système où les conditions de ce type d'activité ne sont pas réunies. Ne sont pas réunies ni garanties, ni mieux garanties, qu'elles peuvent l'être, par exemple, en biologie ou en psychologie ou en sociologie. Hein. C'est-à-dire que la difficulté de l'expérimentation dans ces sciences, je vais aller très vite, mais c'est que dès que vous changez un paramètre, vous changez l'organisme dans son ensemble, vous changez le système dans son ensemble. Il est très difficile d'intervenir sur un paramètre sans modifier en quelque sorte tous les éléments qui constituent cette structure. Hein. Et c'est vrai en psychologie, c'est au fond ce qui fait aussi la grande difficulté des sciences de l'homme. Hein. Eh bien, Hume a très bien vu ce point-là. Hein. C'est-à-dire qu'il pense qu'il faudrait, d'une certaine façon, si on voulait faire des expérimentations, il faudrait que ces divers paramètres fussent indépendants, en quelque sorte, les uns des autres. Là, on pourrait obtenir des lois qui soient à peu près stables et bien faites. Hein. Le problème, c'est qu'on ne peut pas. C'est-à-dire que là, brusquement, vous êtes dans un système tel que chaque paramètre est dépendant des autres paramètres, et il est donc très très difficile de tenir un discours rationnel sur les passions. Il faudrait pouvoir le faire pour construire une loi par induction, mais là, c'est plus un rêve que quelque chose, qu'autre chose. Alors on pourrait dire que là, on a un principe qui pourrait s'appeler en quelque sorte le principe de Bacon. C'est exactement c'est le point où Bacon pouvait inspirer en quelque sorte Hume. Enfin, troisième principe qu'il faudrait mettre en place, il faudrait pouvoir supposer une sorte de neutralité affective, initiale, de la personne sur laquelle on expérimente. C'est-à-dire qu'il faudrait quasiment pouvoir avoir un état de neutralité affective, et puis alors on pourrait, en quelque sorte, modifier les circonstances et voir comment cette personne neutre affectivement change quand on change l'objet, quand on change la cause, quand on change les qualités de la cause, quand on change la finalité, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe donc pour l'ensemble? Alors on comprend que pour écrire une loi du style de celle de la double association, ou de la triple association, eh bien, il faut se donner des conditions tellement abstraites, celles dont je viens de parler tout de suite, qu'elles sont absolument irréalisables. Irréalisables dans les conditions ordinaires du déroulement des passions telles qu'elles existent. Ainsi, la loi que l'on peut écrire ne peut donner lieu qu'à des repérages sommaires de passions. C'est-à-dire que la complication des phénomènes dont elle prétend rendre compte est beaucoup trop grande pour que, par exemple, la prévision de tel ou tel état passionnel soit possible. Ou du moins, la loi doit être constamment retravaillée pour rendre compte de l'indéfinie complication des situations. Alors, nous en verrons quelques exemples nous avons le temps tout à l'heure. Mais il va de soi, il en va de cette loi des passions, un petit peu comme de la loi de gravitation de Newton. On a d'ailleurs très souvent rapproché le travail que fait Hume en psychologie, parce que ça, c'est autant de la psychologie que de la sociologie, que des sciences de l'homme, que de l'histoire, d'une certaine façon. Enfin, disons, le travail qu'il fait dans les sciences de l'homme, on va utiliser une notion très anachronique. Eh bien, ce travail a souvent été rapproché de celui que fait Newton. Et il faut bien comprendre dans quel sens c'est vrai. C'est que il en va donc, je disais, de cette loi des passions comme de la loi de gravitation de Newton, qui ne peut pas être vraie. Il faut faire très attention à ça, qui ne peut pas être vrai, je veux dire qu'il peut être conforme aux choses telles qu'elles se donnent à travers nos instruments d'observation, étant donné la complication des phénomènes qu'il s'agit de démêler, mais qui est un bon contrat, on pourrait dire, entre les chercheurs. Et la loi de Newton a servi comme ça, essentiellement. C'est un bon contrat. On peut facilement, par exemple, amender cette loi de Newton. On peut amender cette loi de Newton en fonction des observations que l'on a, et on va en quelque sorte corriger constamment cette loi. Elle se laisse très très bien corriger, pourvu que on soit suffisamment habile dans les en analyse, bien sûr. Eh bien, on peut dire d'une certaine façon que Hume fait à peu près la même chose. Il a cette loi qu'il va constamment amender. Et lui, ses observations, on peut pas observer très facilement les phénomènes passionnels. Mais il a au moins comme matériau, parce que certes le matériau de la vie courante, d'une certaine façon, hein, mais il a aussi les matériaux que lui offrent les philosophies de ses collègues, hein, les romans qu'on peut lire, les poèmes, hein, les tragédies, les tableaux, les musiques, hein, d'une certaine façon. Alors, encore une fois, il faut bien comprendre ce point, ce qui fait l'extrême complication du matériau que la loi de la double association prend en compte, hein, est que le jeu des sensations, des idées, des représentations de toutes sortes n'est pas d'emblée confiné aux prétendues limites d'un moi. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. C'est-à-dire que les hommes, et j'insiste sur ce point, hein, Jung dit pas le moi est formé d'un ensemble de perceptions, etc. Je lis le texte qui est très étrange, hein, où il dit, c'est à la fin du traité de la nature humaine qu'on trouve ce texte, il dit les hommes, il dit pas l'esprit de chaque homme, hein, les hommes ne sont, alors il dit ironiquement, à l'exception des théologiens, qui met toujours à part, parce que eux, ils croient qu'il y a des moi. Ils le pensent, ils songent par exemple à quelqu'un comme Descartes, hein, qu'ils classent ironiquement parmi les théologiens. Donc, les hommes, à l'exception des théologiens, ne sont qu'un faisceau ou une collection de perceptions différentes. Un faisceau ou une collection de perceptions différentes qui se succèdent avec une rapidité inconcevable et sont dans un flux et un mouvement perpétuel. Voilà, c'est ça. L'esprit des hommes, c'est quelque chose comme ça. Il ne faut pas trop chercher à directement isoler tel esprit individuel de tel autre. Tout de suite, vous allez dire, c'est vous qui parlez, c'est bien vous qui formez une espèce d'individu qui dit, oui, mais vous êtes là. Vous êtes là à écouter, vous allez parler tout à l'heure. Déjà, c'est nous constituons une espèce de psychisme relativement collectif où il est très très difficile d'avoir un ciseau philosophique qui permettrait de découper très exactement ce qui est à l'un et ce qui est à l'autre. Très très difficile de faire quelque chose comme ça. D'autant que Jung parle volontiers d'une sympathie, c'est-à-dire que d'une certaine façon on se met volontiers à la place de l'autre, les autres se mettent aussi à notre place. Ça ne veut pas dire qu'ils y parviennent, encore une fois. Il y a énormément d'imaginaire là-dedans. Mais c'est indispensable pour que se structure quelque chose comme des affects. Bien, donc cette impossibilité de limiter par avance, hein, le jeu des passions ouvre un champ libre aux investissements psychiques, aux identifications psychiques de toutes sortes, hein, que Hume donc classe sous la rubrique de la sympathie. C'est ça qu'il appelle la sympathie. Ce jeu comporte si peu de limites définissables a priori que l'esprit des hommes, qui fonctionne selon les associations décrites par Hume, n'est ni celui de chaque individu humain, hein, ni même celui des seuls membres de l'espèce humaine, car les animaux aussi, hein, quelques-uns d'entre eux du moins, participent de ce fonctionnement psychique, hein, connaissant les mêmes passions, ou des passions très voisines, de celles des hommes. Là, c'est un point qui est très important. Hume n'a jamais oublié les animaux. Quand il traite de la question des passions, constamment, il est question des animaux. Où il a l'impression qu'un chien peut être orgueilleux, peut être haineux à certains moments, peut aimer son maître, etc. Et on est très loin de Descartes. Hein. Descartes pensait que les animaux... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, là. Je vais faire honte à Hans Stacke. Hein. Mais, je veux dire, les animaux, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont des machines. Bon, mais on peut les considérer comme tels. Chez Descartes, il n'y a aucun inconvénient épistémologique à traiter les animaux comme s'ils étaient des machines. D'une certaine façon, on pourrait, une technologie très évoluée pourrait très bien fabriquer un animal et même fabriquer des intelligences beaucoup plus compliquées encore que celles de l'animal. Mais chez Hume, pas du tout. Chez Hume, l'animal est vraiment... C'est un type d'intelligence, exactement comme l'homme est un type d'intelligence. Et d'une certaine manière, les animaux peuvent avoir des passions très voisines des nôtres. Ça me semble, on reviendra, si vous voulez, tout à l'heure sur ce point qui me semble très important. Pour l'heure, notons pour compléter notre réflexion, j'ajoute quand même, c'est un point qui a vivement intéressé Darwin, hein, le grand Darwin, l'homme de l'évolution des espèces. Il a lu Hume sous cet angle-là, ça l'a passionné. Il a pensé que c'était quelque chose d'essentiel qu'accrochait Hume, hein, d'une certaine façon. Mais pour l'heure, donc, notons, pour compléter notre réflexion sur le savoir du cours des passions, que ce flux n'est pas seulement simplifié par l'intelligence qui s'en empare, hein, qui veut écrire des lois, écrivant des lois qu'il lui faut constamment répliquer en quelque sorte sur elle-même pour qu'elle devienne ployable à la complexité réelle des associations. Le point est maintenant très important. Le flux lui-même se simplifie. Le flux des passions lui-même se simplifie, s'auto-simplifie réellement, hein, si j'ose dire, transformant chaque système passionnel en moment éphémère de cycle ou de révolution qui présente d'autres moments selon la nécessité d'un passage, d'une transfusion, comme dit l'auteur, que le philosophe s'efforce de penser. Alors là, le point est important. C'est que les passions décrivent grosso modo des cycles, hein, d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire que on pourrait se dire, mais puisqu'il y a un flux, ce flux, d'une certaine façon, il n'a pas forcément à décrire des cycles. Hein. Ce que va montrer Hume, c'est que, d'une certaine manière, on constate que les passions décrivent, en gros, des cycles qui les voient, en quelque sorte, qui voient ces passions réapparaître, hein, de telle sorte que le passage de telle passion à telle autre soit possible sans que le trajet inverse, par exemple, de retour, ne soit possible, alors même que la logique, tant celle des tunes que celle des structures linguistiques de l'affaire, de l'affect, ne semble pas l'empêcher. Le point qui est important est ceci, c'est que toute succession n'est pas possible en matière de passion. Et si les premières analyses de Hume pouvaient laisser croire à leur temporalité abstraite et réversible, qui est celle de la mécanique, hein, de la mécanique classique, très vite, on conçoit, par un autre tour que nous découvrons être celui de la dynamique, que la temporalité des systèmes, la temporalité réelle des systèmes passionnels, s'écoule dans un sens, hein, sans que le cheminement inverse ne soit possible. Alors, ainsi, trouvera-t-on que l'on passe plus facilement de l'amour à l'orgueil que de l'orgueil à l'amour. Il montre d'une certaine façon que la flèche du temps passe dans ce sens, mais pourrait que très difficilement être de l'autre côté. Et dans le traité, Hume donne deux exemples de cycles. J'ouvre une parenthèse pour dire que saint Thomas d'Aquin a à peu près la même théorie. Il y a chez saint Thomas d'Aquin au XIIe siècle, et je ne sais pas si Hume connaissait saint Thomas d'Aquin, probablement oui, hein, mais il a à peu près la même théorie. J'ai pas vu exactement, il donne pas d'exemple de cycle, mais il dit volontiers que les passions décrivent en quelque sorte des cycles. Hein, elles décrivent ces cycles dans un certain sens, et on pourrait pas voir le cycle décrit dans l'autre sens, hein, ça serait très difficile. Il y a vraiment une espèce de télos, il y a vraiment une flèche du temps, hein, d'une certaine façon. Je vous lis le texte qui me semble important, qui est dans le traité. Alors je vais être obligé de vous le traduire, je l'ai mis en anglais. Il dit le chagrin et la déception, hein, donnent lieu à la colère à l'envie, l'envie à la malignité, à l'envie de faire du mal, la malignité à nouveau au chagrin, jusqu'à ce que le cycle se referme sur lui-même. Et il prend un deuxième exemple. De la même façon, notre tempérament, notre temper, hein, c'est le, je ne sais pas comment traduire ça, hein, notre caractère, le fait de se poser là, hein, notre tempérament, on va dire ça comme ça, hein, c'est dommage, on ne peut pas traduire ça très bien. Notre tempérament, lorsqu'il est naturellement excité par la joie, se lance dans l'amour, la générosité, la pitié, le courage, l'orgueil et toutes les autres affections qui leur ressemblent. Et il ajoute, il est donc évident qu'il existe une attraction ou une, voyez, il utilise le mot de Newton, hein, une attraction ou une association qui agit sur les impressions comme sur les idées, quoique, par une remarquable différence, ces idées sont associées par ressemblance, contiguïté, cause, alors que les impressions ne le sont que par ressemblance. Bon, on ne va pas commenter ça, ça serait infernal, il faudrait beaucoup d'heures pour le tout à fait le voir, mais il est, je crois, cette fois, tout à fait clair, hein, ce qui me semble très clair dans ce texte, hein, c'est que la conception systématique de l'ensemble des passions est sans doute davantage conforme à une approche de style biologique, on pourrait dire, ou historique, hein, qu'à l'approche mécanique. On voit que le temps est extrêmement fléché, comme c'est le cas, par exemple, en biologie ou comme c'est le cas en histoire. Hein. Et alors que Hume, quand on commence à lire ces textes, on a l'impression qu'il va être un mécaniste assez rude, ou d'une certaine façon, les choses vont être de telle sorte que la flèche du temps pourra être très facilement réversible. On s'aperçoit que, ben non, c'est pas vrai. Si véritablement il y a des cycles qui se tracent dans un sens et qui ne peuvent pas être remontés en quelque sorte dans l'autre, c'est qu'on voit que, eh bien, on n'est pas dans une acception qui est trop mécaniste, mais qui est beaucoup plus, d'une certaine façon, biologique que mécaniste. Et Hume est allé fort loin sur ce registre-là, hein, sur ce dernier registre, qui est moins mécanique donc que biologique. Lorsqu'il a eu l'idée, avant la lettre, d'une sorte de sélection naturelle des systèmes. Au fond, pourquoi dans ce chaos, dans cette espèce de flux, hein, pourquoi on voit de temps à autre des passions qui ont l'air de dominer, hein. Mais c'est parce qu'elles résistent mieux. Elles résistent mieux que les autres dans cette espèce de sélection qui existe entre les systèmes, hein. Une sorte de sélection naturelle des systèmes et de leur transition. Et Hume comprend que ce qui prend l'allure d'une finalité, ce qui prend l'allure d'un télos, hein, de simplification, dans lequel l'intelligence se projette comme dans un miroir, est en réalité lié à la confrontation tout à fait aveugle, hein, des systèmes les uns aux autres, créant une sorte de flèche du temps qui ne peut pas être retournée. Les cycles se décrivent dans un sens et ne sauraient être décrits dans le sens contraire, quoique, au fond, rien ne l'empêche intellectuellement, hein. Rien n'empêche de l'imaginer d'une certaine façon. Mais on voit que c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Et c'est cette résistance-là qui intéresse Hume. Alors, est-ce un hasard, je reviens à Darwin, hein, est-ce un hasard si Darwin, si on voit Darwin s'intéresser vivement à cet aspect de la philosophie de Hume, hein, qui a recours à cet argument à chaque point décisif de son système, comme par exemple la réflexion sur le droit ou la réflexion sur les religions. On peut lire dans la note rédigée par Darwin au début de l'année 1839, donc ça est séparé d'un siècle à peu près, hein, il dit ceci, j'ai recueilli ce texte sous la plume de Darwin, où il dit « Hume a écrit sur la raison des animaux ». Ça l'intéresse, hein, qui est véritablement des passions et une raison animale. Hein. L'animal raisonne pour Hume. Hein. Il peut calculer d'une certaine façon. Il a parfaitement raison. Enfin, il suffit de voir un animal agir. Et, évidemment, il y a une intelligence animale prodigieuse. Hein. Bon, et c'est ça qu'il voit très bien. Hein. Hume a écrit sur la raison des animaux. Alors, il donne le contexte. Et aussi, une origine de la religion. Une origine du polythéisme. Toutefois, il semble accorder un instinct. Alors ça, c'est dommage. Pour Darwin, entre parenthèses, vous voyez combien Darwin est critique à l'égard de la notion d'instinct. Hein. On croit toujours qu'il s'est massivement servi de l'instinct, mais pas du tout. Hein. L'instinct, c'est une notion qui, justement, fait barrage. C'est un obstacle épistémologique. Hein. Et j'oserais dire que c'est vrai aussi pour Hume. C'est dommage, il est tombé sur un mauvais texte. C'est pas le seul texte qu'il faudrait mettre en avant chez Hume qui attaque aussi très souvent la notion d'instinct. On comprend bien d'ailleurs pourquoi. Hein. Il n'y a rien d'instinctif dans les passions, elles sont complètement liées à un jeu de relations. C'est-à-dire que donc il n'y a pas une pulsion quelconque qui serait des passions. C'est simplement un jeu de paramètres qui fait que il y a quelque chose comme des passions, mais il n'y a pas à proprement parler d'instinct. Donc, il dit toutefois, alors là, il déplore ça, hein, c'est Darwin qui parle, il semble accorder un instinct, alors ce qui, évidemment, aux yeux de Darwin, est un principe de facilité, qui accorde par finalité ce qu'on ne peut pas expliquer par des causes plus efficientes. Hein. Je soupçonne que le cercle vicieux des doutes et du scepticisme serait résolu si l'on considérait l'origine de la raison comme s'étant graduellement développée. Autrement dit, ce qui l'intéresse beaucoup chez Hume, Darwin, c'est que il y a une genèse des choses. Il essaye d'expliquer comment on en est venu à quelque chose qu'on appelle la raison, ou comment on en est venu à quelque chose qu'on appelle telle ou telle passion. Il y a une espèce de, il y a une généalogie, hein, d'une certaine façon, de ces passions. Hein. Et il pense que ça, c'est apporté à son crédit. Hein. Et Hume, dit-il, a écrit une histoire naturelle de la religion et découvert son origine dans l'esprit humain. Hein. Bon, peu importe, je laisse courir le texte, mais on voit à quel point, hein, je reviens là-dessus encore une fois, et j'aurais insisté beaucoup sur ce point, on voit donc ici à quel point il faut prendre au sérieux, hein, selon Darwin, outre la généalogie des systèmes, hein, outre le fait de sélection des systèmes, qui fait que pourquoi est-ce que il y a au fond pourquoi n'existe-t-il que relativement peu de passions qu'on puisse désigner, alors que en réalité il y en a des milliards de plus, si j'ose dire, mais on tend à sélectionner plutôt certaines configurations que d'autres, qui ont mieux résisté au jeu sélectif, hein, d'une certaine façon. Bon, alors ça, cela peut intéresser évidemment Darwin, mais je crois qu'il faut prendre au sérieux les chapitres sur les animaux, hein, qui sont partout présents dans son œuvre. Hein. La référence aux animaux n'est pas anecdotique. Hein. Elle est si peu anecdotique qu'elle relève d'une véritable fonction critique. Si, par exemple, ce qu'on dit de l'homme s'éloigne trop de ce qu'on peut dire des animaux, bah, c'est, aux yeux de Hume, un signe d'erreur. Si quelque chose ne isolerait complètement les hommes par rapport aux animaux, eh bien, il faudrait sans doute considérer que la chose est fausse. Donc, l'esprit humain, et voilà ce qu'on peut peut-être dire là-dessus, c'est que l'esprit humain n'est qu'une variété du fonctionnement psychique, lequel peut revêtir beaucoup d'autres formes. Beaucoup d'autres formes, animales et machinales d'ailleurs, mais dont les lois ne sont pas si différentes qu'on pourrait le croire en passant, quand il s'agit des animaux, d'une espèce à l'autre. Donc, l'autosélection des systèmes passionnels échappe à l'intelligence, hein, qui voudrait se tenir à une approche seulement logique, seulement rhétorique du cours des passions, comme on le voit par exemple chez Aristote. Hein. Il faut que, sous-tendant cette approche logique, une dynamique des forces psychiques offre ses hypothèses pour que l'explication soit plus complète. Alors, je voudrais dire quelques mots au fond de cette dynamique humienne, dont on ne voit pas la trace dans la dissertation, mais que l'on voit véritablement à l'œuvre dans le traité, hein, qui est pourtant une œuvre de jeunesse, c'est un ouvrage extrêmement intéressant et important sur ce point. Hein. Le jeu des forces échappe évidemment immédiatement au sujet. Je ne sais pas exactement, comme sujet, quelles sont les forces qui agissent dans mes passions. Si tant est que je puisse dire mes passions, d'ailleurs. J'ai simplement une fonction à jouer dans un certain type, dans un certain système, d'une certaine manière. Mais elles n'ont pas lieu en moi, en particulier. Donc ce jeu des forces échappe évidemment immédiatement au sujet, qui est pris dans un système passionnel, dont il aperçoit pourtant, et en quelque sorte investit les pôles catégoriels ou les pôles structurels. Hein. Le sens de l'écoulement met en jeu quelque chose qui n'est pas senti, mais qui ne peut être que construit, quoi qu'il rende compte de ce qui est senti. Hein. Quand, par exemple, une structure passionnelle met en jeu divers acteurs, hein, lesquels n'ont pas, sur l'ensemble de la structure, la même perspective. Ces divers acteurs ne sont pas toujours bien placés pour comprendre la logique de ce qui se passe dans la structure même. Le choix des perspectives qui comptent échappe aux acteurs sans que ne leur soit immédiatement intelligible le principe de cette sélection. Je vais affiner un petit peu mon exemple. Dans le traité, Hume développe longuement le cas d'un enfant dont la mère se remarie. Il explique que, je crois qu'il a été lui-même un peu dans ce cas de figure, mais je m'avance un peu en le disant, je suis pas sûr dans quel sens ça a marché. Alors lui, là, ce qui l'intéresse, c'est ça. Notez bien le point. Hein. C'est-à-dire qu'il prend le cas donc d'un enfant dont la mère se remarie. Et il explique que la perturbation de l'enfant, la perturbation psychique de l'enfant est plus profonde dans ce cas, dans le cas où la mère se remarie, que dans celui où c'est le père qui se remarie. Or, la simple structure familiale, perceptible, si j'ose dire, in abstracto, par l'entendement, par le nôtre, ou a fortiori celui de la mère qui chercherait à comprendre ce qui se passe, ne permet aucunement de l'établir. On ne voit pas trop pourquoi il y aurait une difficulté particulière. Et ne permet pas de l'établir sans un sens de lecture du système, en l'occurrence, sans son orientation du point de vue de l'enfant, qui va être celui qui va peser le plus lourd, qui pèsera le plus lourd dans le système, sans que la mère n'y puisse rien. Car la mère, qui partage son amour entre son nouveau mari et cet enfant, ne voit pas pourquoi son remariage gâterait plus ses relations avec cet enfant que ne pourrait le faire l'existence, par exemple, pour cet enfant, d'un frère, par exemple. Il faut comprendre que, quand bien même le nouveau mari serait un tendre époux et un tendre beau-père, la domination mâle imposée par la société ferait que le système des noms et la répartition des pouvoirs auraient été extrêmement stable dans le cas de la disparition de la mère, alors qu'ils sont radicalement naufragés par la disparition de l'ancien père de famille et qui nécessite un nouveau nom et finalement un nouveau pouvoir. Alors encore une fois, que la mère ou que le nouveau père le veuille ou non, vous voyez le point qui est important. Alors on voit ici combien le poids du nom est essentiel. Mais on voit aussi, plus généralement, que Hume conduit ses analyses de telle sorte que la direction et le sens selon lesquels se saisit une situation sont inclus dans la structure affective elle-même, comme une façon indéfectible, en quelque sorte, de se présenter. Ce qui contraste avec la volubilité toujours possible du point de vue lorsqu'il s'agit de percevoir et d'imaginer. On pourrait dire que loin de, on pourrait dire ça peut-être autrement. Et parfois, Hume emploie cette image-là qui est peut-être plus facile. Il dit qu'il y a une gravité des passions. Il y a une espèce de lourdeur des passions. Elles ont un pli. Cette structure, elle se donne toujours à lire dans un certain sens et elle a son inflexion. Elle pèse d'une certaine façon. Alors que les images que j'ai sont extrêmement volatiles. L'imagination est très volatile. Tout de suite, je suis en train de vous imaginer certains des pulls rouges ou des pulls mauves, etc. Je peux m'amuser très facilement à inverser les couleurs, etc. Donc l'imagination est très, très habile et très facile d'une certaine façon dans son jeu. Les passions, on ne peut pas. Une fois que vous êtes triste, vous êtes triste. Il est difficile de changer, du moins, il y a une inertie des passions. Elles ne changent pas aussi facilement que nos images, par exemple. Donc, loin d'être, soumise à une infinité de points de vue possibles, la structure affective est liée, on pourrait dire, à quelques points de vue relativement rigides, relativement indéfectibles. Elle choisit ses points de vue, où elle les élit, par une érosion des perspectives entre elles, qui échappe aux acteurs et n'est pensable que par l'auteur et son lecteur, qui en reconstruisent la dynamique. Mais cette dynamique, la plupart du temps, échappe aux acteurs mêmes qui constituent la structure. Alors, ne croyons surtout pas que cette reconstruction par la dynamique soit inessentielle, et que l'on pourrait se contenter d'un jeu logique en affinant par exemple l'aristotélisme, hein, il faut qu'une structure ait un pli, une perspective qui impose sa règle grâce à une sélection qu'elle a emportée sur d'autres règles. C'est-à-dire que si une partialité est nécessaire pour que tel système puisse fonctionner comme un système passionnel, il faut aussi, en apparence a contrario, qu'une certaine impartialité vienne objectiver la passion, faute de quoi elle ne serait pas même repérable. C'est-à-dire qu'une haine qui serait vécue seulement... Ah, on me dit que j'ai 10 minutes devant moi. Hein, c'est bien ça, hein, Anne. D'accord. Donc, une haine, oui, qui serait vécue, je dirais, en première personne, hein, d'une certaine façon, ne deviendrait jamais une haine, et en tout cas ne pourrait pas s'identifier comme telle. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'il y ait passion, hein, qu'il y ait conjointement, disons, à un sens de lecture du système, hein, adoption ou prise en compte d'un point de vue relativement impartial, hein, ou pour mieux dire, dont la partialité a fini par l'emporter sur toute une série de partialités, laissant à l'observateur le soin d'expliquer, en quelque sorte, ce triomphe, hein, d'un point de vue sur les autres. Alors, on pourrait généraliser cette reconstruction de la dynamique dans un espace psychique dont il resterait à examiner les tensions et les lois en observant les directions et les sens de l'opération, des sensations, des idées et de l'imagination. L'imagination préférant se propulser en quelque sorte vers les sommets que dégringoler vers le bas, ne répugnant pas à se lancer au loin, dans le passé, dans le futur, dans l'espace, hein, plutôt que de rester au présent et tout près. Hein. Les sensations et les idées étant toujours plus pesantes, en quelque sorte, que l'imagination. Hein. Mais aussi, le galiléisme, le relativisme, étant à l'œuvre dans le domaine psychique comme dans le domaine physique, toutes les inversions sont possibles. Et c'est là-dessus que je voudrais peut-être finir, hein, puisque on ne me laisse pour l'instant que 10 minutes et j'ai largement pris mon temps. Hein, et c'est pas du tout, un mouvement de révolte que je veux dire. Ce que je suis en train de ce que j'aurais simplement suggéré, c'est ceci. Hein, c'est que tout ce qu'on a dit tout de suite est constamment réversible en même temps chez Hume, parce que il est suffisamment galiléen, suffisamment relativiste pour faire ça. Alors, je voudrais montrer ça pour terminer, hein, si je puis dire. C'est que le galiléisme ou le relativisme étant à l'œuvre dans le domaine psychique, comme il l'est en physique ou en cosmologie, hein, toutes sortes d'inversions, je disais, sont possibles dès lors que Hume comprend les sensations, les idées, les imaginations, moins comme des choses, ce ne sont pas des petites choses, les sensations, les idées, etc., moins comme des choses aux propriétés diverses que comme des fonctions, hein, que comme des fonctions qui permettent à certaines sensations de fonctionner comme des idées ou à certaines idées de fonctionner comme des sensations pour d'autres idées. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, il faut comprendre idées, sensations, impressions de réflexion, etc., comme des fonctions, beaucoup plus que comme des êtres qui existeraient, des entités qui existeraient en soi. Et du coup, l'explication par la double ou la triple association permet, alors, avec une grande souplesse, de rendre compte de situations qui eussent été incompréhensibles sans ce langage des fonctions. C'est-à-dire, si on s'en était tenu à un langage réaliste, à un langage chosiste. Il est vrai qu'il faut pouvoir expliquer des situations qui comportent des contradictions affectives, comme par exemple celle qui, par sympathie, me fait éprouver une certaine joie de la joie de l'autre, pourvu que l'on ajoute que cette joie a tôt fait se colorer de tristesse, voire de jalousie, quand elle est la joie d'un autre, laquelle me rappelle que j'ai, moins que lui, l'occasion de me réjouir. Mais, comme se le reproche Hume à lui-même, il est obligé, en quelque sorte, pour réconcilier les contradictions qu'il paraît trouver dans l'expérience même, de je le cite, de laisser échapper de son système des passions cette simplicité qui en faisait la force principale et la beauté. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, parce que pour qu'on ait véritablement une discussion là-dessus, ce que je voulais dire, j'ai le sentiment d'un petit peu rater le dernier point, ce que je voulais dire exactement, c'est que il essaye de vous avez bien vu le type de système qu'il essaye de faire, mais par une espèce de raffinement extrême, quand il montre que les sensations, les idées, etc., ne sont pas vraiment des petites choses, des choses psychiques, des entités psychiques, mais des fonctions, ça lui permet d'expliquer, par exemple, des situations qu'il ne pourrait pas expliquer autrement. Autrement dit, il gagne un degré de finesse dans ses explications. Ce qui est très coûteux, ce qui est très dangereux de faire ça, parce que, d'une certaine façon, on s'aperçoit qu'on peut expliquer une situation, et au fond, la situation contraire pourrait être expliquée à peu près de la même façon. Que vaut une théorie qui vous explique une situation et la situation contraire? Et là, on a effectivement un jeu rhétorique qui est un petit peu délicat, un petit peu subtil et dont on pourrait se demander s'il est suffisamment explicatif. On attendrait d'une certaine façon d'une thèse qu'elle soit explicative. On s'aperçoit qu'elle est rhétoriquement très puissante, mais est-ce qu'elle est explicative? Mais enfin, on pourrait peut-être dire la même chose de certaines physiques. La physique de Newton, on pourrait exactement dire ça. C'est-à-dire qu'il est il a été possible avec la physique de Newton d'expliquer au fond quelques situations que vous vouliez. Par la finesse de l'analyse mathématique, vous pouvez très facilement expliquer une situation ou une autre situation. Au fond, les mathématiques n'expliquent rien, c'est ça que je veux dire. Elles n'expliquent rien, c'est-à-dire qu'elles déterminent très bien les situations. C'est un outil très puissant pour déterminer les situations. Mais la mathématique n'est en aucune façon explicative. Et là, on pourrait se demander la même chose pour Hume. Hume a très bien vu que la mathématique n'expliquait rien, il en fait le grief à Newton. Mais son système explicatif, est-ce qu'il vaut plus cher dans le domaine des passions? Parce que il vous explique une situation et une explication contraire. La subtilité est très très grande. Mais quand la subtilité est grande, est-ce que, véritablement, on explique les choses? C'est-à-dire que l'intelligence est comblée, est ravie, mais est-ce qu'on a véritablement expliqué les choses? C'est ça le point. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, sinon je vais continuer, et puis ce serait vraiment très dommage de nous priver d'une... Oui, mon Dieu, oui, j'ai pas vu filer le temps. Et là, il est vraiment très très grand temps, merci de m'arrêter. Bon, je vous en prie.
Je remercie beaucoup Jean-Pierre Clairaut pour son bel exposé. Avez-vous des questions?
Ou des objections?
Oui, ou des remarques? Je vais, dans ce cas, commencer. Je vois bien le rôle du langage dans ce jeu, un peu comme une fonction d'ailleurs, dans ce jeu des passions. Et je vois bien aussi l'importance que les passions ont chez les animaux et qu'il faut rester proche pour l'explication de l'homme. Et j'ai plus
je
de
te vois
mal
venir
à articuler les deux éléments.
Voilà, c'est excellent. Là, voilà une. Et là, c'est une objection très forte. Là, tu es en train de dire au fond, si on fait jouer un rôle très puissant au langage dans les passions. On voit pas comment les animaux qui sont privés de langage, c'est ça que tu veux dire, pourraient d'une certaine façon avoir des passions. Je crois qu'il faut faire très attention aux mots de langage. Et c'est là où est toute l'astuce. Bien sûr, je pense que Hume, quand il dit langage, pense évidemment aux diverses langues. Ça, c'est parfaitement clair. Mais il pense aussi que... Il pense le langage comme quelque chose qui peut se découper en signifiant. C'est-à-dire, au fond, presque n'importe quelle situation peut devenir langage, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, donc, il ne faut pas trop imaginer que langage, c'est forcément traductible par le mot langue. Il n'y a pas que des langues qui constituent le langage. C'est-à-dire que, mais quand même, oui, je veux dire que ton argument est très fort, très très puissant contre Hume, je pense que c'est une objection. Simplement, il faut bien comprendre que, dans le traité au moins, les langues chez Hume ne sont pas, elles sont liées a, enfin, l'imagination est plus profonde que les langues. C'est-à-dire, il a l'impression que les langues sont scandées par l'imagination qui finalement rend les langues assez voisines les unes des autres. Il a un discours très curieux sur les langues en disant, en fait, elles sont très proches les unes des autres. Bien sûr, on dira « tish » pour dire ce que j'ai devant le nez, ou « table » ou « tabula », etc. Bon, mais là, en même temps, c'est pas, je triche parce que c'est la même origine, quasiment. Mais on pourrait prendre des langues très lointaines et dans lesquelles on pourrait dire « table », on pourrait dire « bouteille », on pourrait dire « verre », on pourrait dire « le verre est sur la table ». C'est-à-dire qu'en très gros, les schèmes des langues sont assez voisins les uns des autres. Ils pensent cela. Hein. Je crois que c'est très contestable. Hein. Mais ils pensent quelque chose comme ça. Ils pensent d'une certaine façon que les langues ne sont pas très séparées les unes des autres. Il y a véritablement... Elles disent à peu près les mêmes choses. Et il dit comme preuve qu'elles peuvent se traduire. Ce qui est évidemment pas très, très, très fort comme argument. Parce que, elles peuvent se traduire, mais enfin avec quel succès, on va dire, au sens du 17e. Hein. Pas forcément avec un très bon résultat. Mais c'est très vite, par exemple, quelqu'un comme Bentham, qui vient, quoi, un demi-siècle après Hume, va dire, justement, mais c'est pas comme ça que marchent les langues. Les langues, c'est elles qui structurent l'imagination, c'est pas l'imagination qui structure les langues. Hein. Et il faut faire très attention au fait que les passions seraient très différentes, et il va faire des tables, il va faire ce qu'il appelle dans les Springs of Action, il va, un superbe texte où il montre que le latin ne découpe pas les choses tout à fait comme l'anglais, etc. Donc il dit qu'il faudrait multiplier les langues et regarder comment on dit comment on dit les passions, comment on dit les plaisirs, comment on dit les peines, et il dit on s'apercevrait de distinctions énormes, effectivement, hein. Et on pourrait pas les réduire très très facilement en disant que c'est le même système imaginaire qui porte tout ça. Loin de là, hein. D'une certaine façon, le jeu des langues est extraordinairement différencié. Hein. Alors Hume, lui, a pensé plutôt que il y avait quand même l'imagination qui primait tout ça. Qui faisait en sorte que le jeu des langues ne soit pas si éclaté qu'on veut bien le dire, que finalement on dit à peu près les mêmes choses. Si j'avais à dire ça en anglais, bon, ce serait plus pénible pour moi. Mais en gros, je pourrais quand même à peu près dire la même chose. Alors vous allez dire, oui, mais l'anglais, c'est du français. Oui, c'est vrai pour une part. Il y a toute une partie de l'anglais qui est purement liée. Alors, mais je pense qu'on pourrait, je m'avance, mais peut-être, je crois qu'on pourrait dire à peu près les mêmes choses dans une autre langue, même très lointaine. Voilà, c'est ça. Au fond, Hume a pensé ça. Voilà, c'est ça que, tu vois, que je voulais dire. Et ton argument reste vrai. Ton argument reste fort. Hein, c'est-à-dire que si on met le paquet sur le langage, on voit pas comment les animaux pourraient avoir des passions. C'est vrai que c'est le point très dur. Mais il faudrait dire qu'ils ont un certain accès au langage. C'est-à-dire que c'est pas, ce qui n'est pas faux. Je pense qu'ils ne parlent pas de langue, mais et ils peuvent comprendre sans doute les interjections qu'on leur fait, mais c'est pas par là qu'ils... Mais je pense qu'ils structurent d'une certaine façon, eux aussi, le monde en objets. Ils ont une syntaxe, ils ont une certaine manière de découper le monde qui a quelque chose à voir avec le langage. Hein. Il faut entendre le mot langage en un sens très large. Voilà. Et dans ce cas, il y a un accès de l'animal au langage. Hein. Je crois qu'on peut dire ça. Oui. Je ne sais pas si... Oui.
Si, si, tout à fait. D'autres questions ou remarques ?
C'est juste une toute petite question. C'est quelle est ça ? Quel est son point de vue par rapport à la religion ?
À la religion, hein, oui, vous dites bien ça.
À la religion, au sens général du mot.
Oui, oui.
Au polythéisme, au monothéisme.
Oui, oui. La religion a beaucoup intéressé Hume. Il a énormément écrit sur le phénomène religieux. Il a écrit le texte qui a intéressé Darwin, hein, l'histoire naturelle de la religion. Il pense que il pense plusieurs choses sur les religions. Il pense qu'elles ont une espèce de nécessité. C'est une espèce de nécessité de l'esprit d'imaginer qu'il y a quelque chose comme des dieux ou ensuite de les unifier en disant qu'il y a peut-être un Dieu qui, d'une certaine façon, unifie l'ensemble des lois. Ils pensent que ça, c'est quasi inévitable, que l'imagination a besoin, d'une certaine façon, de, en quelque sorte, réunir les diverses lois et de faire comme s'il y avait un créateur du monde, etc. On a besoin de cette unification. Mais, dans les dialogues sur la religion naturelle, qu'il n'a jamais publié de son vivant, on comprend d'ailleurs un peu pourquoi. En Angleterre, c'était assez dangereux de publier ce genre de texte. En très gros, ce qui montre, c'est que tout cet argument-là est faux. Il ne faut pas le prendre au sérieux. C'est-à-dire que, certes, on a peut-être besoin d'un dieu. On fabrique des dieux assez spontanément, hein, parce qu'on a besoin de transcendance. On a besoin de quelque chose qui surplombe, en quelque sorte, notre propre esprit. Mais il faut se garder de croire que ces êtres transcendants existent. Donc vous avez une critique très sévère des religions naturelles, de ce qu'on appelle les religions naturelles. Dans les dialogues sur la religion naturelle, il ne cesse de casser, d'une certaine façon, tous les arguments en faveur de Dieu. Hein, et en montrant que aucun ne débouche sur quelque chose de très convaincant. Il n'y a pas véritablement de... On ne peut pas argumenter en faveur de Dieu. Voilà l'idée. Et alors, je ne sais pas si je vous réponds. Hein, mais donc là, on a affaire effectivement à quelqu'un qui ne... Ben, quand il fait agir ses passions, par exemple, je crois que le mot de Dieu ne figure même pas dans les 200 pages en question. Dieu n'y est pour rien. Il ne s'agit pas du tout de condamner les passions pour lui. Elles font partie de ce jeu inévitable. Il y a des impressions. Ces impressions se réunissent en idées. Ces idées ont des associations. Bon, tout ça, forme une espèce de flux avec cette espèce de sélection dont je parlais. Mais la sélection, elle est aveugle. Il n'y a pas un dieu qui préside à tout ça. Hein. Donc, d'une certaine façon, là, on est dans une conception parfaitement athée, enfin, très humaniste des passions. On peut certes intervenir dans le flux des passions, par le langage, par toutes sortes d'institutions, etc. Je n'ai pas du tout fait agir une notion de commerce, etc. Bon, là, on peut agir donc sur ce flux passionnel, mais il ne s'agit pas de dire que Dieu l'a voulu d'une façon ou d'une autre. Les dieux sont littéralement discrédités. Enfin, on ne les voit pas dans ce texte-là. Enfin, dans les textes sur les passions, en tout cas. Même si le jeu passionnel nous donne envie d'avoir quelque chose comme des dieux. Voilà en gros l'idée. Oui. Ah, n'hésitez pas, hein, vraiment, surtout.
Dans l'exemple que vous avez donné de l'enfant avec la maman, est-ce que vous voulez bien réexpliquer un petit peu
Oui. Il dit simplement, pour un enfant, il est plus difficile, au 18e, hein, j'insiste là-dessus, hein, il est plus difficile, par exemple, de perdre un père que de perdre une mère. Ou plus exactement, si l'enfant est lié à une mère qui s'est remariée, l'enfant va avoir un très lourd travail à faire, parce qu'il va changer de nom, il va changer d'autorité. D'une certaine façon, la mère peut ne pas le comprendre et pourrait avoir un excellent mari, un deuxième mari très très gentil, etc. Et les enfants gagnaient un deuxième père, si je veux dire, un beau-père très très adorable. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de changements, ça crée énormément de changements. Quelle est la relation avec Hume? C'est que là, vous avez un système dans lequel des forces sont il s'agit de regarder le poids des choses, c'est-à-dire comment les structures sont pesantes, comment elles prennent un pli d'une certaine façon, ces structures. Et c'est ça qu'il essaye de montrer à travers cet exemple, hein. Parce qu'on pourrait se dire, mais ça se lit un peu dans tous les sens. On pourrait dire, bon, ben, après tout, il gagne, il perd sans doute un père, un premier père, mais il y en a un deuxième, etc. On pourrait, avec l'imagination, on peut ne pas comprendre, au fond, pourquoi ça fait problème, cette structure. Or, il montre qu'elle est problématique pour l'enfant, et il prend, au fond, le point de vue de l'enfant en montrant que c'est une structure difficile parce que Ben justement, on change de père, on change de pouvoir et on change le nom qui est si important. Hein. Et chez Hume, d'ailleurs, il a changé son nom. C'est ça, c'est pas pour rien qu'il prend cet exemple-là. Hein. Il s'appelait Home. Il avait peur du ridicule de s'appeler Home et il voulait qu'on s'appelait Hume. Et donc, il a changé son nom. C'est assez rare, cette attitude-là, de changer son nom. Hein. Et c'est lourd de sens. Hein. Et là, il met l'accent là-dessus, en disant... Alors, on vous a dit, mais vous montrez exactement le contraire, parce que lui, il est parfaitement conscient. Mais un enfant peut ne pas en être conscient, il comprend pas ce qui se passe, peut-être. Il va être soumis à énormément de changements d'autorité, dans toutes sortes de sens, du pouvoir paternel. Bon. Et bien sûr, on est dans une société qui est... très paternaliste, hein, bien sûr. Hein, peut-être qu'aujourd'hui, les choses seraient vécues très, très différemment, où le poids de la mère est à peu près... Enfin, tend à être équilibré avec le poids du père. Là c'est le déséquilibre est radical, il est absolu. Hein. L'homme donne le nom, il a le pouvoir, c'est lui qui, d'une certaine façon, structure la famille comme il l'entend. Et toute la société attend cela... du père. Aucun n'est coupable dans l'affaire. On attend quelque chose comme ça. Et donc, Hume a bien conscience du poids de ces structures. Il les met pas en cause. Hein. Il est tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut bien qu'il y en ait un qui commande. Hein. Si véritablement les deux se mettent à commander à part égale, c'est catastrophique pour les familles. Hein. Et donc, pour lui, il est très, très... Il est royaliste absolument, très anti-Cromwell. Bon, il est à droite. Délibérément, hein, si je puis dire, on dirait ça sur l'échiquier politique aujourd'hui. Hein. Donc, mais en même temps, il voit très finement les choses. Il voit bien que c'est quand même assez aléatoire. Si les choses se passent comme ça, ça pourrait se passer autrement. Hein. Il est suffisamment intelligent pour le comprendre. Hein. Mais il est assez intelligent pour dire justement, pour éviter tout désordre, il vaut mieux être implacable avec ce genre de choses et pas laisser l'idée qu'après tout, telle chose existe, mais pour y en avoir une autre à peu près équivalente, c'est très dangereux de penser ça. Il est très conservateur. Hein. Il pense d'une certaine façon qu'il faut pas laisser ce discours-là. Hein. Et il vaut mieux choisir. C'est arbitraire, mais c'est comme ça. Bon, puis il y a une tradition. Hein. Il y a un poids de la tradition qui fait que on est paternaliste. C'est le père qui doit triompher. C'est lui qui donne le nom, etc., etc., etc. Sans aucune espèce de problème. Alors que, évidemment, pour nous, ça nous fait problème. On sait qu'on peut créer des sociétés avec un poids égal des hommes et des femmes, que c'est peut-être un peu plus difficile à vivre pour les bons hommes, mais tant mieux. C'est très bien comme ça. Je veux dire que, bien sûr, mais c'est intéressant de lire ces textes pour voir l'hésitation qu'il y a au 18e. Ce serait vrai aussi chez Rousseau, hein. Ce serait vrai chez You, chez Hobbes, dont tu as parlé. Ce sont des gens qui ne remettent pas en cause le fait qu'un homme, ça vaut plus qu'une femme, même si elle est plus intelligente par ailleurs, etc. Ça vaut plus qu'une femme, socialement parlant, par le pouvoir, etc. C'est monstrueux, hein. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est... Alors c'est ça que je voulais dire, hein, c'est une espèce de poids inconscient, mais qui pèse tellement lourd, hein, qui forme vraiment les passions. Hein. Je crois que les passions, on les a là. Hein.
Une dernière question.
Merci beaucoup, en tout cas. J'avais une question par rapport à ce que Hume distingue. Au début, vous aviez dit, distingue donc les impressions de sensations, de réflexions qui sont les passions. Est-ce qu'il conclut la même chose ou est-ce qu'il étend ses conclusions par rapport aux passions aux perceptions? Donc, ce qui aurait des conséquences assez importantes en termes épistémologiques. Et oui, ce serait la base de son scepticisme à ce niveau-là.
Oui, alors, Hume commence toujours un peu par de la logique, puis ça se termine par de la dynamique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il fait une distinction très nette entre ce qu'il appelle les impressions de sensation et les impressions de réflexion. C'est-à-dire, en très gros, il pense que pour qu'il y ait des impressions de réflexion, il faut qu'il existe déjà un certain niveau de sensation. C'est-à-dire que, alors c'est indiscernable dans le vécu, hein, mais il faut faire une distinction entre le niveau des sensations et les sensations de sensation, le fait de sentir qu'on sent, hein, si j'ose dire. Bon, sans que ça implique une conscience quelconque. Hein, c'est pas, encore une fois, ça n'indique pas un jeu, ça n'indique pas un ego, un sujet d'une certaine façon. Hein, ça pointe pas vers un sujet. Hein, simplement, les sensations sont redoublées. Et pas seulement les sensations, mais les idées. Les idées sont aussi redoublées. Hein, par exemple, si j'ai l'idée de ce que je vais faire ce soir, je peux en éprouver un certain plaisir. Et du coup, l'idée elle-même se sent, hein, d'une certaine façon. Bon. Donc, c'est ça qu'il veut montrer. Et on peut toujours aller plus loin. D'une certaine façon, se sentir lui-même peut se sentir. Et donc, on a constamment des strates qui sont possibles. Hein. Il y a une complication qui se fait. Alors, vous vous disiez en même temps, est-ce que, qu'en est-il de la perception, hein, est-ce que... Ah oui, il faut que vous parliez dans le micro.
Est-ce que la perception est elle-même, enfin, est-ce qu'il définit la perception comme elle-même relative et dynamique, et donc ce qui...
Oui. Comment il voit ça? Il pense d'une certaine façon que la perception est faite d'une poussière de sensations. Hein, il pense qu'il existe quelque chose comme des sensations élémentaires, et que la perception implique que vous synthétisiez d'une certaine façon des sensations. Hein. Donc, mais en même temps, ce qu'il montre bien, c'est que ces sensations n'ont pas d'existence véritablement en soi. Hein. Elles n'existent que par rapport à un axe d'intérêt que je puis avoir pour ce chaos de sensations que j'ai. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de choses pour Hume. Les choses n'existent pas directement. Je n'ai que des sensations que je structure. Hein. C'est-à-dire que le fait que des sensations réapparaissent régulièrement, et ont l'air stables, me font croire, qu'il y ait des sensations, me fait croire qu'il y a quelque chose comme des objets que je vais découper, etc. Et qu'il y a sans doute quelque chose comme un monde qui est relativement stable. Mais on voit que le monde d'objets est ma constitution, c'est ma construction, enfin ma, entre guillemets, hein, c'est la construction d'un psychisme. On construit d'une certaine façon le monde. Est-ce qu'il existe quelque chose comme des choses qui existeraient en elles-mêmes, en soi, et qui donneraient des impressions? Là, c'est trop dit, on ne sait pas, on ne pourra jamais savoir. Ça a l'air d'être comme ça. On a l'impression, par exemple, que le jaune que je vois des fauteuils, le bleu des fauteuils, ça vient des fauteuils qui existeraient comme fauteuils. Mais on peut rien en dire. Nul ne sait ça. On n'est pas du tout de l'autre côté des perceptions pour savoir comment ça se passe. C'est pas un matérialiste, Hume, de ce point de vue. C'est-à-dire, il pense pas du tout qu'il y ait une matière qui provoquerait en moi quelque chose comme des sensations. J'ai ce sentiment très fort. Hein, c'est ça la transcendance, hein, le fait de poser d'une certaine façon qu'il y a à l'extérieur de moi quelque chose qui existe véritablement. Mais j'en sais rien. Je peux absolument pas garantir quelque chose comme ça. Il n'y a pas de garantie de l'extériorité, de l'existence en soi des objets à l'extérieur de mes perceptions. Je ne peux pas garantir quelque chose comme ça. Ce qui peut être dit simplement de plus sérieux sur les choses et le monde, c'est qu'il y a des zones de stabilité. Par exemple, ces fauteuils qui étaient jaunes il y a encore une heure et demie ou deux heures, bah restent comme ça. En gros, les perceptions n'ont pas changé beaucoup. L'ordre est resté stable. Bon, c'est ça qui me fait croire qu'il existe quelque chose comme un monde. Voilà, c'est la stabilité des perceptions qui fait que on a le sentiment qu'il existe quelque chose comme un monde. Voilà, c'est tout ce qui fait le... Alors, en ce sens-là, il y a bien un côté un peu affectif. Le monde, enfin, les perceptions reposent sur quelque chose qui est relativement affectif. Pourquoi est-ce que je fais confiance à ma mémoire, par exemple? Pourquoi est-ce que je me dis qu'il existe quelque chose, que tout à l'heure, je voyais la salle à peu près dans le même état que celle que je vois, que l'état que je lui vois tout de suite? Je fais confiance à quelque chose que je crois être comme un rapport au temps qui a existé. Mais on voit que là, ça implique d'une certaine façon beaucoup de... Beaucoup de choses très risquées. Il n'est pas du tout évident que les choses soient ainsi. Je les vis ainsi, j'ai tendance à les poser comme cela, mais il n'est pas dit qu'elles existent véritablement comme cela, les choses. Il est difficile, par exemple, de distinguer la mémoire d'une imagination. Est-ce que je ne suis pas simplement en train de fantasmer qu'il a existé quelque chose comme un passé? Est-ce que ce passé, je peux en avoir la certitude Certainement pas. J'ai une probabilité qu'il en soit ainsi. On est strictement dans un monde où l'univers, le monde, les choses ne sont que probablement ce qu'elles sont. C'est un peu la même chose, ça rapproche beaucoup Hume de Descartes, hein, par exemple. Hein. C'est-à-dire que le monde tel que je l'ai tout de suite devant les yeux pourrait être produit par des milliards de façons. Il y a des milliards de façons qui peuvent me donner exactement l'impression que j'ai tout de suite. Et le tout, c'est de choisir une explication qui soit à peu près correcte, c'est-à-dire qui me donne exactement ce que j'ai. Dès que j'aurai une contradiction dans mes hypothèses, il faudra que j'en change. Mais c'est pas la peine d'en changer trop. C'est-à-dire que si mon hypothèse vaut, ça veut pas dire qu'elle est vraie. Elle est très probablement fausse. Mais elle est stable. Chez Hume, vous avez à peu près la même idée. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de mes perceptions? Mais j'en sais fichtrement rien. J'en sais rien. J'aimerais bien le savoir, mais là, c'est impossible. C'est un petit peu ça qui fait qu'il n'est pas religieux. Il pense qu'il n'y a pas moyen de savoir. Et ça ne nous gêne pas pour vivre entre hommes. Ça ne nous gêne pas pour, comment dire, pour faire des sciences. Ça ne nous gêne pas. On a strictement besoin du jeu des perceptions et des règles qu'on peut écrire sur les perceptions, du règle des sensations. Ça suffit. On peut avec ça faire de la très bonne science. On ne fait pas de la science très différente si on croit qu'il y a des objets à l'extérieur ou si on n'y croit pas. Les choses sont à peu près les mêmes. Il n'y a pas de différence de ce point de vue.
On peut imaginer, comme vous avez dit tantôt.
On peut imaginer, oui, qu'il y a des choses qui existent en elles-mêmes, me donnant effectivement des impressions. Et on dirait que cette imagination-là, elle est lourde, elle est forte. J'ai le sentiment que ça se passe comme ça. Mais ce n'est qu'un sentiment. Personne ne pourrait démontrer ça. Il faudrait qu'il y ait une conscience entre moi et les choses qui s'interpose et qui me donne raison au moment où j'ai cette idée-là à l'égard des choses. C'est impossible. C'est impossible. Donc on peut pas savoir s'il existe quelque chose comme des choses structurées comme je crois qu'elles sont structurées à partir du jeu de mes sensations et de mes perceptions.
Je pense à Berkeley, si vous connaissez.
Mais vous avez bien raison d'y penser. Oui. C'est tout à fait quelqu'un qui est berkeleyen. Il est berkeleyen jusqu'au bout des ongles, Hume. C'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui est effectivement est très voisin de ça. Et non seulement ça, mais même sa théorie du langage est très voisine de celle de Berkeley. Il dit d'ailleurs explicitement dans le traité de la nature humaine que, au fond, il n'a pas besoin de travailler sur le langage parce que Berkeley a fait le boulot. Berkeley a fait le travail, donc c'est pas la peine d'aller tellement plus loin. Hein. Et il a comme théorie du langage une chose qui est très importante. C'est que pour lui, c'est pas un signe, c'est pas signifiant, signifié, c'est pas un signe un signifiant qui se rapporterait à un signifié qui serait une idée générale. Pour lui, c'est, les signes sont utiles les uns aux autres. Il y a un rapport, en quelque sorte, il y a une fonction des mots les uns par rapport aux autres. Ils me servent, ils servent en quelque sorte ces signes, mais c'est dans un rapport de service qu'ils ont leur signification. C'est pas parce qu'ils se rapportent à une soi-disant idée générale qui n'existe pas. Il n'y a pas d'idée générale au sens strict. Et donc là, on voit qu'il est très très voisin, il est très très proche. Et on voit par exemple pour les passions, dont je parlais tout à l'heure, que le langage, il n'a pas du tout comme fonction de représenter les passions. Le langage, il fait les passions, il trame les passions, il les articule. Il a une fonction à l'égard des passions. Mais il ne les représente pas. C'est pas parce que je dis amour que j'ai une représentation correcte de ça. Mais amour est un mot dangereux. Je peux aimer avec ça. Ça me donne à aimer. Enfin, ça me donne très bien, délicieux. Hein. Mais je veux dire, ça me donne à aimer. Ça me donne quelque chose comme une espèce de tâche, hein, où la société parle d'amour. Et moi, je sais pas trop ce que c'est. Mais j'ai bien envie de savoir, puisqu'on dirait que des gens savent ce que c'est. Et je vais faire pas mal d'actes, etc., psychiques, pour avoir cette espèce de sentiment. Et voilà, donc on voit comment le langage trame, hein, d'une certaine façon, les choses. Chez Berkeley, vous avez aussi une théorie de l'affectivité qu'il n'a pas beaucoup développée, mais qui est au fond assez voisine de ça. C'est quelque chose qui est assez voisin de ce que fait Hume. Et évidemment, lui, il n'a pas Hume sous les yeux, il a Locke, et c'est Locke qui l'attaque. Parce que Locke, lui, a une théorie du langage qui est assez saussurienne, on pourrait dire, je dis ça d'une manière grossière et vraiment très anachronique. Mais pour Locke, il y a des signes et des signifiants qui se rapportent à des idées générales. Alors, le malheur pour Locke, c'est qu'il a dit quelques pages avant qu'il n'y avait pas d'idées générales, qu'on ne pouvait pas du tout les penser. Hein. Mais il donne ça comme théorie du langage. Et c'est ça que Berkeley va dire. Il va dire, mais enfin, c'est incohérent. Enfin, ou il y en a, ou il n'y en a pas. Mais vous ne pouvez pas avoir cette théorie du langage qui est que le langage représenterait quelque chose. Hein. Non, le langage est... Mais c'est un rapport, un jeu différentiel de termes qui est utile, enfin est utile dans mon appréhension du monde. Hein. Et c'est comme ça qu'il faut voir essentiellement les choses, mais pas comme une espèce de représentation in abstracto de ce que sont les choses. Hein. Voilà, en gros le point. Hein.
Voilà. Oh. Vous mentionniez qu'au cours de votre conférence, en ce qui concerne l'homme pour Jung, qu'il se serait, il pourrait objectiver son être, être personnel, son être. Allez. Est-ce que vous pourriez faire éventuellement un rapprochement avec l'existentialisme, par exemple?
Oh là là, le rapport de Sartre avec Hume est tragique. Là, je veux dire, c'est curieux parce que je comptais finir là-dessus. Alors, ça tombe vraiment. Votre question est magnifique, puisque Hume n'a pas intéressé beaucoup Sartre. Il le cite pour ainsi dire jamais. Hein. Mais il le cite dans un texte et un très long texte qui s'appelle L'idiot de la famille, le texte qu'il a fait sur Flaubert. Et là, vous avez une page superbe et fausse. De part en part, enfin à mes yeux, sur Hume. Il dit finalement Hume, il a voulu être le Newton du monde mental. Il a fait tourner des petites constellations dans nos têtes et tout se passe comme si les sensations s'associaient, les idées s'associaient, tout ça tourne, etc. Oui, mais c'est pas exactement ce que veut dire Hume. Je veux dire, il dit pas du tout que ça se tourne dans nos têtes. D'abord, il n'y a pas d'individu si facilement marqué. Je veux dire, bon. Donc, je suis pas persuadé qu'il y ait un lien très, très profond, alors, entre Hume et l'existentialisme. Mais ce que veut dire Hume, c'est pas tellement ça. Il a comme idée il se sert de Newton plutôt comme d'un repoussoir. Les idées, enfin, les lois de Newton sont aux yeux d'Hume des lois qu'on peut contester. Elles sont simplement probables. Elles ont une valeur uniquement probable. Et la loi d'association n'y échappe pas. C'est une loi de nature probabiliste. Mais ce qui fâchait Sartre, je crois, quand il lit des textes comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas l'esprit est assez spatial d'une certaine façon chez Hume. Moi, c'est ce qui me plaît pour ma part. Je pense que dire que l'esprit est espace, que c'est un certain type d'espace, ça me semble important. C'est vrai qu'il fonctionne comme un certain type d'espace. C'est vrai qu'il y a une espèce de temporalité de l'esprit. Faut pas se précipiter trop à dire c'est de l'intentionnalité. Je sais pas ce que c'est, moi. Ce qu'il vaudrait mieux faire, c'est ce que fait très patiemment Hume en disant il y a une certaine expérience qui est d'ailleurs elle-même douteuse et on essaye à partir de ça par induction, de fabriquer un certain système, de montrer comment le psychisme fonctionne. C'est ça qu'il essaye de faire très modestement. Et c'est ça qui plaît pas du tout à Sartre. Pour Sartre, c'est inacceptable. D'abord, premièrement parce que chez Sartre, l'ego n'est pas rien. C'est-à-dire, le sujet est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut forcément que toute expérience soit référée à un sujet. Il est très cartésien de ce point de vue, Sartre. Là, non, il y a une dissolution totale de l'ego. L'ego n'existe que par l'orgueil, le narcissisme, etc. C'est des fantasmes qui font exister quelque chose comme un ego. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'existence de l'ego. Et donc, on voit que la distance qu'il y a entre entre la philosophie de Sartre et puis la philosophie de Hume. Mais là, il faudrait qu'on en dise beaucoup. Mais alors, mais le mot existentialisme, vous l'entendiez peut-être de manière plus comment dire ça, plus précise, en disant que l'existence précéderait l'essence, hein, comme dit Sartre, hein, l'existence est toujours première par rapport à la détermination de l'existence. Alors oui, il y a un peu de ça chez Hume, c'est-à-dire que le flux perceptuel existe avant qu'il ne se structure, par exemple. Bon, alors c'est dans un sens très large, on pourrait dire quelque chose comme ça, mais dans un sens trop large, hein, par rapport à la philosophie de Sartre qui récuse. Globalement, c'est un non qu'il a à l'égard de Hume. Il ironise contre Hume constamment, et à tort, hein, parce que c'est une philosophie autrement plus ciselée que ce qu'il en dit. Mais les philosophes sont très méchants entre eux, hein, ils passent leur temps à se caricaturer affreusement entre eux pour avoir la facilité de se réfuter, hein. C'est dès que vous prenez au sérieux un auteur, vous tombez sur un os à chaque fois quand il s'agit de réfuter, parce que c'est ciselé, c'est intelligent, c'est bien fait, on n'a pas envie de réfuter même, hein. Mais si vous avez envie de réfuter, il faut y aller à la serpe, hein. Il faut vraiment dire, ben là, ce qu'ils ont dit, c'est absolument honteux, on peut pas dire ça, etc. Bon, il faut arriver à dire ça, hein. Mais là, c'est, là, il y a vraiment un conflit majeur, hein, entre Hume et Sartre.
La matière, donc la substance, oui. Pour Berkeley, ça n'existe pas.
Du moins, on ne peut pas l'établir, on ne peut pas savoir. Là, il est berkeleyen. Hein. Berkeley va vous dire que ce qui existe, ce sont les sensations que j'ai. Ce qui existe, c'est le fait de pouvoir organiser ces sensations. Ce qui existe, c'est le fait de pouvoir doubler ces sensations d'autres sensations et d'avoir des sensations de sensations et des sensations de sensations de sensations, etc. Bon, ça, ça existe. Et ça, je peux le mettre en ordre. Maintenant, s'il s'agit de dire que tout ça, je le dois à une matière qui existerait en dehors de moi, là, y a problème. D'abord, je ne peux pas le savoir. Et on voit pas même comment l'établir, qui établirait ça, comment on pourrait établir quelque chose comme ça. Il faudrait véritablement que vous ayez un intermédiaire, une sorte de tiers, hein, qui puisse en gros dire que vos impressions sont conformes à quelque chose qui existerait au-delà, par-delà vos impressions, derrière, comme vous dites. Mais le problème, c'est que le derrière, on ne l'a pas, on peut pas l'avoir. On peut pas être sûr de quelque chose comme ça. Hein. Et c'est impossible de l'établir. Comment on pourrait le faire? On l'établirait qu'en ayant à nouveau des impressions, des sensations, etc. Donc on n'aurait rien gagné. Et au fond, comment est-ce qu'on le saurait qu'il y ait quelque chose comme ça? On le saurait encore en redoublant, en quelque sorte, le monde une fois encore. Mais on ne pourrait pas véritablement on peut pas l'établir au sens strict. C'est tragique qu'on vit dans un monde dont on ne peut pas établir la réalité, comment dire, substantielle. Hein, on ne peut pas dire quelque chose comme ça. Ce qu'on appelle réalité substantielle, c'est la stabilité des lois. C'est où les choses ont l'air d'être très fixes. Puis on a le langage qui nous sert. Hein. Berkeley a écrit un texte superbe qui s'appelle Théorie de la vision, nouvelle théorie de la vision. Et dans le paragraphe 40 ou entre 40 et 50, il dit d'une certaine façon que c'est le langage qui nous permet de structurer les choses. C'est parce que je peux dire bouteille, je peux dire verre, je peux dire etc. que d'une certaine façon, je fais des unités de mes sensations. Et c'est ça qui fait que, il y a effectivement au fond, les mots sont ce qui me permet de fabriquer des choses avec mes sensations. Voilà
Excusez-moi, mais je crains, on a déjà dépassé de 20 minutes, je crains Oula. Que la porte soit fermée par le
concierge. Oulala, on va donc dormir ensemble. Écoutez, comme on aura une nuit à passer à philosopher, là.
Il y a une sortie de secours, mais qui n'est pas très bien éclairée et très facile. Donc, malgré l'intérêt de la discussion, je me vois contrainte de l'arrêter ici. Je remercie encore vraiment.
Ben moi, je vous remercie aussi. J'étais très content d'être ici. Merci.
Alors, je vous invite le 2 mars à venir entendre parler des passions selon Rousseau par Antoine Hatzenberger. Et lundi prochain, c'est dans le cycle sur la préhistoire où Serge Lemaître nous intéressera à l'art rupestre.